Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui raconte son service militaire dans son nouveau livre Verdun et qui vient retrouver ici des copains de régiment, Yann Moix. Une grosse tête dont les jupes ne se rallongent pas en même temps que les jours, Ariel Dombal. Une grosse tête qui dit tellement je sais qu'elle va finir au musée Jean Gabin, Caroline Diamant.
Bonsoir.
Une grosse tête, tête d'affiche au cinéma, au théâtre et à RTL, Gérard Jugnot. Ouais. Une grosse tête dont l'étendue de la culture nous donne une idée de l'infini, Paul Elkarat. Pareil pour le poids de Bernard Mabie.
Toujours aussi.
Ah, vous êtes content. Hein.
Oui, parce que j'ai changé au dernier moment, en fait. C'est en disant la présentation de Paul Elkarat que je me suis dit, c'est un peu drôle. Vous si êtes, j'enchaîne avec ma bille.
Vous êtes salaud. Oh là là. Vous êtes salaud. Il a fondu.
Savoyard. Faut que je vous présente monsieur Elkarat, monsieur Moix, parce que je sais que vous êtes hypermnésique. Toujours, parce que.
Toujours, mais à côté de lui, je suis un trou de mémoire ambulant.
Vous êtes content de pouvoir concurrencer monsieur Moix ce soir, Paul Elkarat? C'est votre première fois ensemble,
hein? Bah oui, écoutez, moi quand j'étais plus jeune, j'écoutais les On n'est pas couché jusqu'à point d'heure. Et du coup, j'entendais Yann, vous, et du coup, j'en ai deux pour le prix d'un, c'est fou.
Non, ça... Il est intimidé, le petit.
Ouais. Bah oui.
Oh, vous allez voir, il va confondre les dates et tout. Il va nous dire Jeanne d'Arc 1515.
Non, faut pas déconner quand même.
Non, mais c'est vrai que c'est mignon de le voir impressionné parce que nous, on n'a jamais réussi à avoir ce petit tremblement de voix chez lui.
Impressionné, ça va.
Moi, tu m'as vu si tu regardais la télé en noir et blanc.
Oui, c'est ça, ouais, avec Thierry Leluron. Ouais.
Une première citation pour Antonio Ferrara qui habite Trouy dans le Cher, qui a dit « Les couleurs de relais 4x100 mètres iraient plus vite s'ils n'avaient pas apporté le témoin. »
Stéphane Diagana?
Non.
Jean-Yann?
Non. Coluche?
Non. C'est un francophone.
Gueluc?
Non.
Bah non, Légaré. C'est Raymond DeVos.
L'arrivée?
Légaré.
Légaré.
Pierre Légaré, bonne réponse de Bernard Mabille. Alors attention, on passe aux citations culturelles pour Damien Malfait, qui habite Plumelin dans le Morbihan.
Malfait,
joli nom.
Monsieur Malfait, oui, c'est pas sa faute, écoutez, puis on le voit pas d'ici, de toute façon. Alors voici la citation, qui a dit, ça c'est joli, l'âge n'a pas d'importance, à moins d'être un fromage.
Wow. Ah.
Bernard Mabille?
Non.
Colette,
non. Alors, au lieu de balancer des noms comme
c'est
ça, vous voyez.
Est-ce que c'est français?
C'est pas français, c'est un homme.
C'est américain?
Alors, ce n'est pas américain.
Non, allemand. Non, parce qu'un américain, il connaît pas le fromage.
Et je peux peut-être donner pour impressionner Yann Moix les dates à monsieur Elkarat, on va voir lequel des deux va le plus vite.
Oui.
Non, parce qu'il est fort sur les dates aussi, Moix.
Ben, je me souviens.
C'est quelqu'un qui est né en 1900.
Moi, je préfère les figues.
Les figues?
C'est pas ce que vous mangez. J'ai le plus, à part pour aller.
Oh là là là. Oh, c'est une expression que quand vous voyez les grands-mères. Oh
bah, écoutez, Valérie Pécresse, elle dit faire, moi je dis aller, vous voyez.
Ça fait aller.
Le courage d'aller, ce serait mieux que le courage de faire, avouez.
Oh,
c'est quelqu'un qui est né en 1900 et qui est mort en 1983.
Un Allemand?
À Mexico.
Il est mort à 83 ans.
Luis Mariano.
Ah non.
Ah non, c'est Luis Buñuel.
Bonne réponse de Paul Elkarat. Vous l'aviez,
hein.
Ah bah vous faites plus rapide, monsieur.
Il m'a grillé d'une seconde, le salopard.
Je savais que c'était un Louis.
Oui, je suis un salopard.
On va essayer avec Franck Méry de Roissy-en-Brie une autre citation qui a dit « Le cul est la chose la mieux partagée du monde ».
Ah bah ça, c'est Frédéric Dard.
Yann Moix, Jean Dutour.
Non, c'est pas Frédéric Dard, mais ça ressemble.
Et le cul, C-U-L?
Oui, le cul, C-U-L.
Jacques Audiard. Michel Audiard.
Non, mais on n'est pas loin, c'est le même genre.
Francis Blondin.
Antoine Blondin. Bonne réponse de Bernard Mabille. à une phrase que tout le monde connaît, mais qui en est l'auteur? Pour Denis Fournier, qui habite Verson dans le Calvados, qui a dit « Lyon est une ville arrosée par trois fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais ».
Herriot?
Non.
Était-il lyonnais?
Non, il n'était pas lyonnais, il était né à Paris, dans le 4e arrondissement, et il est mort en 1942 à Saint-Rémy-de-Provence.
C'est Léon Daudet?
Pardon?
Léon Daudet.
Léon Daudet, excellente réponse de Paul Alcarat.
Donc Yann, t'étais meilleur l'autre jour.
Celui-là, je ne l'avais pas. Je dirais moi en plus fort.
Ouais, Léon Daudet,
J'ai une citation plus facile à la portée de Caroline Diamant et d'Ariel Dombal.
Propose Lady Gaga déjà.
On n'est pas loin.
Princesse Tam Tam.
Pour Basile Nguimbus, qui habite Vence dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi les fourrures et les bijoux ».
Marilyn
Monroe.
Alors, c'est pas Marilyn, mais c'est pas loin.
Mais West.
Non.
Jane Russell.
Jane Mansfield.
John Crawford.
On va s'en débarrasser avec les dates.
West.
Elizabeth Taylor.
Elizabeth Taylor. Bonne réponse de Yann Moix. Ça, c'est moins facile. Et c'est politique. Mais vous me direz que c'est d'actualité. Ça pourrait être utilisé, par exemple, par Jean-Luc Mélenchon ou le candidat communiste.
Maurice Thorez?
Non. Qui a dit « Le capital mourrait si tous les matins on ne graissait pas les rouages de ces machines avec l'huile de l'homme ».
Lénine. Karl Marx.
Karl Marx, non.
Engels,
non.
Bounine.
Non plus.
C'est un Français?
Alors oui, c'est un Français né au Puy-en-Velay et c'était un écrivain.
Vauquier.
Homme politique d'extrême gauche. Fondateur du journal Le Cri du Peuple.
C'est Jules Vallès.
Jules Vallès, bonne réponse de Paul Alcarat.
Je crois que...
Attendez, c'est génial, parce que moi, je suis face aux deux, alors je vois Paul qui dit la réponse et Yann qui sourit, qui fait oui.
Non, je l'avais aussi, mais une seconde trop tard.
J'ai une autre citation plus facile, peut-être, pour Marie Lanouzière. Non, c'est pas si simple, notez bien. Mais c'est assez joli, qui a dit « L'avenir, c'est un escalier qui monte au-dessus, et il y a encore un étage, et toujours un étage, et ensuite vient le toit. On redescend l'escalier, étage par étage, jusqu'à la cave, et on appelle ça encore l'avenir. »
Robert Desnos.
Non.
Jean Gabin.
Non.
Un écrivain.
Un poète.
Un poète, non, c'est pas
Gustave
un poète.
Gustave Eiffel.
Mais un écrivain et un artiste allemand, attention, prix Nobel de littérature.
Thomas Mann.
Thomas Bernhard.
Non. Gerhard Hauptmann.
Goethe, non. Prix Nobel de littérature en 99.
Günter Grass.
Günter Grass, ouais. Bonne réponse de Paul Alcarat.
Oui, non, je connais.
Ouais. J'étais sympa pour votre retour l'autre jour de vous faire venir sans lui.
T'aurais pu trouver Caroline Günter Grass. C'est de la famille.
Alors, franchement. Ouais. Alors, non, franchement.
Ouais. Ah non, mais Brad Pitt, ta gueule.
C'est vrai qu'on le confond toujours Bernard avec Brad Pitt.
Attendez.
Entre anorexie.
Ah non, mais alors, la vraie. C'est même pas le Roquefort qui le tue. Non, mais c'est pire que le Roquefort, là. C'est... Non, vous n'avez pas honte, monsieur.
Pas du tout.
Non, en tout cas, ça a été mis en scène par Volker Schlöndorff.
De quoi donc?
Le tambour.
Le tambour.
Oui, non. Écoutez, les informations dont on n'a pas besoin, Ariel.
Le crabe. Il y avait Charles Aznavour.
Non, le tambour.
Le tambour.
Il y avait Charles Aznavour.
Il se trompe, il dit le crabe tambour.
Non, voilà. Parce qu'il a écrit aussi en crabe, justement, Günter Grass.
Oui, mais Volker Schlöndorff a...
Oui, d'accord. Oui.
Vous pouvez lui dire ta gueule, princesse.
Et il est sorti à l'UGC Danton.
Palme d'or de Festival de Cannes.
Non, Ariel, écoutez, je comprends que vous soyez évidemment un peu écartelé entre Yann Moix et Paul Alcarat.
Oui, je me défends, vous allez voir.
Ah, bah oui, ça, je vois bien, oui, en disant des choses. C'est vrai que vous êtes très forte pour donner les réponses à des questions qu'on n'a pas posées. À l'instant, je voudrais poser une question historique à la portée de tous, puisque c'est quelqu'un qui est connu quand on connaît un peu le plan de Paris.
Arrêtez de me regarder quand vous posez une question pour les cons, c'est vexant à la
fin. Ah non, mais là, vous allez voir qu'attention, c'est une question d'un haut niveau, parce qu'on parle d'un colonel français dont la mort héroïque au combat est devenue un exemple patriotique célébré surtout au 19e siècle.
Colonel Chabert.
Ah non, c'est pas le colonel.
Nicolas Chauvin.
Fabien.
Non.
Colonel Moutarde.
Non plus. On va pas faire tous les colonels. Il est mort à 51 ans au siège de Sébastopol, donc vous voyez, c'est un acte de bravoure. Il avait servi d'ailleurs brièvement en Algérie en tant que chef de bataillon en 1845-1846. Il est donc mort 10 ans plus tard, tué héroïquement pendant la guerre de Crimée, donc 10 ans plus tard, le 7 juin 1855 précisément, lors de la prise du Mamelon Vert. Je ne connais pas le Mamelon Vert, mais...
C'est le sein d'un extraterrestre.
Mais ça peut peut-être quand même vous aider. C'est le long siège de Sébastopol.
Ah, j'ai une idée.
Vous avez une idée, allez-y alors.
Le colonel
c'est, pas, c'est pas Michel Bizot?
Ah non, c'est pas Bizot. Non,
le
non,
colonel... Pensez à Michel Bizot aussi.
Le colonel Macron.
Le colonel Macron, non, non, non.
À 51 ans?
Il avait fait Saint-Cyr, il est mort à 51 ans.
Et son nom est devenu un nom commun?
Ah, son nom est devenu en tout cas un nom connu à Paris. Si vous prenez un plan de Paris, vous allez...
Ah, il a une station de métro.
Est-ce que, voilà.
Il cite?
Non, pas une station de métro.
Travaux.
Une rue.
Non, 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 non.
Il a carrément une avenue puisqu'il est mort héroïquement.
Alors, je vais vous dire, il a mieux qu'une avenue.
Alors, Vendôme. Un boulevard. Ah,
mieux qu'un boulevard.
Lourmel.
Étoile.
Vendôme.
Ah, jockey, je sais.
Jean-Pierre Périphérique.
Il a un lycée.
Non, mieux qu'un lycée.
République.
Non. Il a une place.
Mieux qu'une place.
Tour Eiffel.
Il a un monument.
Il a une ville.
Paris.
Il a une province.
Non, il a un stade, un stade.
Ah non, pas un stade. Non,
Trocadéro.
Pas quand... Non, pas quand même.
Dernier.
Attendez. Alors, il mieux c'est que... quoi mieux qu'un lycée?
Un arrondissement. Je peux peut-être vous donner ses prénoms parce qu'on ne connaît que son nom, évidemment. Il s'appelait Adolphe Ernest Raguet. De quelque chose.
De haute cloque.
Ah, Raguet de Raglan.
D'Hidalgo.
Non.
Mais
non,
c'est
non.
Un Français.
Ah oui, c'est un Français. Il est né à Condé-sur-Lescaut. Il est mort à Sébastopol. Voilà un héros français.
Il a une avenue.
Ah, donc c'est pas loin de Sébastopol.
Alors, écoutez.
Au mur.
Il n'a pas d'avenue.
Non, non.
Il a une gare de l'Est.
Vous auriez mieux de faire les pieds au mur, vous.
Il a une gare. Est-ce qu'il a une gare?
Pas une gare. Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à Paris que des
tours? Ah, je
une
sais. Tour. L'arc de Triomphe.
L'arc de Triomphe.
Et c'est le soldat.
Une tour.
Une tour. Un aéroport, non.
Beaubourg.
Non, non,
un musée.
Un musée, non.
Est-ce que c'est une banlieue?
Une ville,
banlieue, de banlieue.
Non, non. Il me semble que j'ai entendu.
Une ville.
Une ville, non, non.
Ah, je sais, c'est le soldat inconnu.
Ah, mais non, non, non.
Ça, c'est la première.
C'est le colonel Poilu.
C'est vrai qu'elle dit des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a dans Paris quand on regarde un plan de Paris?
Oui.
Arrondissement.
Il y a les catacombes.
Mais non.
Les arrondissements.
Les maréchaux, les ceintures.
La Seine.
Oui, mais.
Mais non. On a les numéros des arrondissements.
Le pont.
On a les lignes de métro.
Oui.
C'est ça. C'est une ligne de métro.
Mais pas du tout.
Plan.
C'est, attention, une fois que vous aurez trouvé ça, vous n'aurez pas son nom le pour district. Autant, mais ça va vous aider à trouver
on
son
cherche.
Nom.
Oui. Non, mais ça sert à rien.
Pour économiser 300 euros à la station.
Alors, les pyramides. Il y a la Seine. Y a la...
Alors, ah, c'est, le plan lui-même, c'est le plan de Paris lui-même.
Non, c'est pas le plan de Paris, mais non, mais...
C'est l'imprimeur du plan de Paris.
Mais non, mais... Je cherche. Vous ne connaissez manifestement pas ce colonel, donc je vous aide en vous disant que ce colonel, si vous regardez un plan de Paris, son nom va apparaître parce que sur un plan de Paris, il n'est pas trouvé encore qu'est-ce qui porte son nom.
Ah, oui, l'imprimeur, oui, oui, l'imprimeur.
Oui, oui, oui. Oui. Ok. Échelle.
Colonel.
Jean-Pierre arrondissement.
Alors, toujours pas compris ce que je viens de vous dire.
Au mur.
Son nom n'est pas ce que vous cherchez sur un plan. Son nom est associé sur un plan à quelque chose.
Bah, l'échelle d'un
Boulogne.
Plan.
Mais non, mais il y en a
Vincennes.
Il y en a plusieurs avec des noms différents, vous voyez. Et parmi tout ça, il y a son nom à lui.
Boulevard.
C'est pas un boulevard. C'est
avenue.
Pas une rue. C'est pas
c'est une impasse.
Impasse.
C'est pas une avenue.
Une avenue.
Boulogne.
Mais tout dit sauf ça.
Ah, ça y est, je sais. C'est le guide du routard.
Hop.
Le square.
Le colonel square.
Le square.
Mais non, c'est pas le colonel square. Mais de toute façon, c'est pas ça qu'on cherche. Admettons que ce soit square. Square serait pas son nom. On chercherait un des squares de Paris.
Zot Vincennes.
Mais non.
Monceau.
Mais non.
Monceau.
Un parc.
On va donner...
Montsouris.
Un parc.
Montsouris, oui.
Attendez, on va trouver.
Avec les deux murs.
Oui, un bois. C'est un bois, c'est Vincennes.
C'est pas un bois. On va donner.
Contre-aller.
Mais non, contre.
On va trouver Laurent. On va trouver
le colonel Dauphine.
Là, mais je le connais.
On va,
seconde.
On va donner 300.
Ah, c'est une université.
Non, on va
une
donner fac. 300 euros à Lionel.
Une école.
À Lionel Roland.
Qui Raguet de Meunière.
Il s'appelle Adolphe Ernest Raguet de quelque chose.
Raguet de Saunière.
Et il vous manque le quelque chose.
De Saunière.
Le quelque chose.
Non, attendez.
De rive droite.
Si, je le connais.
Le quelque chose qui se trouve derrière autre chose qu'on trouve sur des plans de. Paris, mais vous trouvez pas quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi?
Raquet de Chaumur, marque déposée.
300 euros pour Lionel Roland qui habite Vichy. Est-ce que quelqu'un aurait une idée dans la salle?
Ah, mais ah oui.
Alors c'est moi qui y vais aujourd'hui parce que je voulais pas faire déplacer.
Ah bah non.
Bernard Mabie.
Il y a deux personnes.
Yann Moix n'est pas forcément
vous
fait pour
que
ça.
Ah moi, vous
vouliez aller y aller. Ah, Ariel va y aller. Alors là, écoutez, regardez cet athlète.
Fais gaffe à la main au cul. Hein.
Mesdames et messieurs, Ariel va y aller.
C'est
joli ce petit chapeau qu'il y a là autour de la taille.
Il y en a qui vont voir sa culotte.
Non. Une charmante dame qui est là. Comment vous appelez-vous, madame ?
Christelle.
Christelle, est-ce que vous avez la réponse ?
Est-ce que c'est un hôpital ?
Ah non, c'est pas un hôpital, non.
Bah, c'était bien la peine.
Je vois une autre main, là.
Il y a une autre main qui se lève ici.
Monsieur, voilà, qui enlève son petit baillon. Vous vous appelez comment ?
Lorenzo.
Lorenzo, est-ce que vous avez la réponse ?
Est-ce que ce serait maillot ?
Ah non, c'est pas maillot, mais monsieur, au moins, vous avez compris et deviné qu'il s'agissait d'une porte. Vous m'avez tout dit, sauf les portes de Paris. Brancion, la porte de Brancion, vous la connaissez quand même.
Oui, mais c'est très loin, c'est complètement de l'autre côté.
C'est très loin du bois de Boulogne.
Mais enfin, je vous ai dit, regardez un plan.
Ah oui,
il y a 2000 rues.
Bah oui, mais c'est pas les rues, c'est pas les avenues, c'est pas les métros, c'est pas les places.
Laurent, on est déjà humilié parce qu'on n'a pas trouvé. Pas.
Vous nous auriez dit, regardez ce qu'il y a au bout du studio, on aurait compris la porte.
Ils n'ont pas trouvé les gens non plus. Hein.
Auriez dit, regardez votre avenir, on aurait dit la porte.
Oui, monsieur Paul Alcarat.
Je suis pas de Paris, je connais même pas la porte de Brancion. En fait.
La porte de Brancion, c'est dans le 15e arrondissement, une porte de Paris. Adolphe Ernest Raguet de Brancion est mort au siège de Sébastopol en héros à l'âge de 51 ans. Il avait bien mérité la porte et vous aussi. Une question artistique et d'actualité, parce qu'on parle beaucoup de la Russie en ce moment et de l'Ukraine, et vous connaissez sûrement ce célèbre tableau, inspiré d'une chanson d'ailleurs, Les Bateliers de la Volga.
Ilia Repine.
Pardon.
Ilia Repine.
Je n'ai pas encore posé la question, monsieur Paul Alcarat.
Non,
je voulais devancer Yann Moix.
C'est une bonne réponse, c'est bien un tableau d'Ilia Repine.
C'est quoi le prénom, c'est quoi le nom ?
J'ai regardé un reportage sur Arte, sur Ilia Repine et les Bateliers de la Volga, et j'ai adoré parce que j'adore Invitation au voyage présenté par Linda Laurin, c'est super, j'en rate pas une.
Et c'est un reportage qu'il a vu il y a 23 ans.
Hein. Il les a pas les 23 ans.
Tu as la marque de ton poste.
Et d'ailleurs, il y a eu une expo Ilia Repine, il y a peu de temps, elle est terminée là, mais c'était au Petit Palais, je crois, l'expo Ilia Repine, et c'est à lui, en tout cas, qu'on doit effectivement les Bateliers de la Volga, qui est une chanson au départ, Bateliers de la...
Gloria Lasso.
Non, mais c'est une chanson qui date de 1866.
C'est anonyme parce que c'est un enfant. Groupe humain, en fait.
On l'a, la chanson Les Bateliers de la Volga, on l'a en plus. Et il faut savoir qu'il y a Répine.
Juste à ce moment-là, Laurent, c'est bizarre quand même. Non
la radio. Ça y est, ils sont arrivés.
Il était sur place.
Non, mais c'était pour rendre hommage à Ilia Repine.
Il était sur place.
Qui en plus, on a longtemps dit que c'était un peintre russe, mais il est né justement à Kharkov, en Ukraine. C'est un peintre ukrainien, Ilia Repine, à qui on doit les Bateliers de la Volga. C'est en tout cas une bonne réponse de notre ami Paul Elkarat.
Tout comme Gogol.
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?
C'est les chœurs de l'armée rouge.
Ah oui, c'est les chœurs de l'armée rouge qu'on vient d'entendre. On a toujours en stock à RTL, au cas où vous arriverez.
C'est un peu les
ça va faire un choc à Neuilly.
C'est les compagnons de la chanson du KGB.
Mais monsieur Ruquier.
Oui, monsieur Elkarat.
Il y en a plein qu'on considère comme russes alors qu'ils ne le sont pas.
Hein. Qui sont ukrainiens ou autres.
Gogol était ukrainien.
Oui. Ouais.
Ilia Repine. Marc Chagall n'était pas russe. Il est né en Biélorussie. Et Chaim Soutine, qui n'est pas russe non plus.
Et Papy est russe.
Papy est russe.
Comme Franco. Alors, une question football. Là, ça va mettre tout le monde d'accord, car je suis certain que vous connaissez les footballeurs qui vont le plus vite. Bah oui, alors c'est vrai qu'Mbappé fait partie des footballeurs qui peuvent aller à une vitesse. Il a été flashé. Il pourrait même pas rouler dans Paris. Il a été flashé à 38 km/h pendant un match. C'est-à-dire qu'il a même pas le droit de courir dans Paris, Mbappé.
C'est Argentine-France.
Cristiano Ronaldo, 38 km/h aussi.
Oh la vache.
Ce sont voilà, des footballeurs qui ont une pointe de vitesse.
Mais derrière un ballon.
Ah oui, derrière un ballon, évidemment. Ou alors le ballon, parfois, non. Parfois, ils courent et le ballon arrive devant eux le temps qu'ils courent.
Ouais, on est dans Olivier Top.
C'est comme Paul avec les questions. Le ballon.
Mais alors, évidemment, le trio de tête, je vous en ai donné deux des footballeurs qui, pour l'instant, ont été flashés à une vitesse absolument incroyable de 37 ou 38 km/h. Je vous ai dit Cristiano Ronaldo, qui est portugais. Je vous ai dit aussi, évidemment, notre français et parisien Kylian Mbappé. Quel est le troisième?
Messi. Maradona.
Ah, Maradona. Messi. Je vais vous dire Maradona.
Est-ce qu'il est toujours en activité?
Maradona, il a couru quand il était gamin, mais alors après.
C'est un espagnol?
Alors, c'est pas un espagnol.
C'est un italien.
Ah, je vais
vous... Et c'est celui qui a donné le coup de tête à Zidane.
Ah, oui, c'est l'inverse. C'est un Hollandais. C'est un Hollandais. Zidane
qui a donné... Il a joué au Real Madrid, il a joué au Bayern de Munich, il a joué à Chelsea, il a joué à Eindhoven.
Eh bien, je...
Mais c'est un Africain,
c'est Ribéry.
Ah, c'est pas un Africain, c'est un Néerlandais, pour tout vous dire.
Ah, bah, c'est ce que je dis.
C'est Arjen Robben.
Et c'est Robben. Bonne réponse de Paul Aycarat. Il connaît même les footballeurs.
S'il connaît même ceux qui sont pas morts, alors là...
on ne sait plus. Gérard, vous avez l'air désespéré.
Désespéré parce que j'avais un petit vernis qui vient d'exploser. Là.
Robben, plus dur encore. Et là, on retourne dans la culture.
Parce vous trouvez qu'on était trop à répondre?
Ah, c'est pas ça, c'est que je vous ai souvent parlé ici de cette série qu'on peut encore voir là jusqu'à la fin du mois de mars, une série France Télévisions. Je ne suis pas à ce point chauvin, je regarde toutes les séries, mais c'est vrai que j'ai trouvé cette série qui s'appelle Leonardo, très très réussi. Et on voit à un moment donné, effectivement, Leonardo travailler avec en face de lui Michel-Ange. J'ai déjà posé une question à propos de ces deux batailles qui finalement disparaîtront parce que ni l'un ni l'autre n'ont absolument pu terminer leur toile. Et c'est un autre peintre, un peintre architecte, écrivain toscan, qui d'ailleurs... est un peintre moins connu que les autres parce qu'en fait, lui, il a publié un livre qui raconte les autres peintres.
Ah, Giorgio Vasari.
Bon, bah écoutez, je m'en vais alors. C'est une bonne réponse de Paul Aycarat, c'est Giorgio Vasari. Alors là, non mais franchement, je pensais pas que vous connaissiez celui-là.
Non, mais je le sais parce qu'il a écrit, la vie des autres peintres de la cour et lui-même était peintre et lui-même était théoricien de l'art, mais il a écrit sur ses contemporains.
Ariel voulait préciser que Léonard de Vinci a peint la Joconde.
Alors là, là, écoutez, c'est pas compliqué, j'invite tout le monde à dîner.
Si j'y trouve.
Ah, parce que ce nom-là, moi, j'en avais jamais entendu parler.
Oh putain, j'ai envie de bouffer.
À quel philosophe écrivain, doit-on la rédaction en 23 volumes de l'encyclopédie Bordas?
Caratini?
Roger Caratini. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Bonne réponse de Yann Moix.
Ah ouais.
Alors, on sort nos agendas.
C'est donc on a droit. Plutôt...
Mais je tiens à présenter mes excuses à Paul, hein, Laurent.
Mais t'inquiète.
Là, il y a entrée, plat de résistance et dessert.
Alors, je vais essayer de prendre une question un peu plus simple. Vous êtes d'accord? Parce qu'autrement, on ne va jamais s'en sortir. Là. Un truc musical avant la pub, si vous voulez bien. Parce que là, on ne peut pas dire que ce soit le compositeur français le plus connu. Et d'ailleurs, il nous a déjà coûté 300 euros ici à RTL. De temps en temps, je ressors son nom. Parce
oh là là.
Que je... Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, et à chaque fois, on ne le trouve pas.
Bah, oui, c'est... c'est le compositeur des cloches de Corneville.
Ah oui,
ah oui c'est, oui, c'est Robert Planquette.
Oh merde.
Moi, ce que je vous propose...
Mais vous économisez un fric fou avec lui.
Ah, bah, attendez.
La
c'est pas vous qui allez inviter à dîner ce soir. Mais en tout cas, c'est bien Robert Planquette, le compositeur des cloches de Corneville.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Ariel Dombasle, Caroline Diamant, Yann Moix, Paul Aycarat, Bernard Mabir et Gérard Jugnot. Question littéraire, et vous comprendrez que je suis obligé évidemment de monter le niveau des questions littéraires aujourd'hui.
Oui, moi je comprends tout. pas les questions, mais...
La présence de Monsieur Moix, de Monsieur Elkarat, et puis d'Ariel Dombal qui nous donnera quelques précisions supplémentaires.
Sur la Joconde.
Après la réponse, là je vais vous demander de retrouver le nom tout simple d'un poète. Un poète mort à Saint-Mandé, donc dans la région parisienne, mais pourtant né à Athènes, donc d'origine grecque. Ce poète à qui on doit les Cantilènes ou les Sirtes, quel est son nom ?
Ezra Pound ?
Non.
Cavafi ?
Non.
C'est les rivages des Sirtes ?
Georges Guettari ?
Georges Guettari, non.
Jean Moréas.
Jean Moréas, bonne réponse de Yann Moix.
Je vais jouer Ariel Dombal. Il y avait écrit un poème qui s'appelait Le Rhin. Oh, farfadé elfe couronné de joncs.
Comme c'est gracieux.
Et c'est le. Et Monsieur Ruquier,
oui.
C'est le théoricien du symbolisme. Et il est né Ioannis Papandréou.
Exactement. Papa, ah non, mieux que ça. Papa Diamantopoulos, si ça plaît.
Ah
oui, oui.
Le frère de famille, alors.
Je vais maintenant vous demander l'auteur, né en 1904, d'origine polonaise, à qui on doit ce célèbre...
Witold Gombrowicz.
C'est Witold Gombrowicz. Bonne réponse.
Laurent, oui. Vous pouvez quand même poser la question ou...
Non, mais là, votre numéro de mentaliste...
Je vais dans tous les pays chercher des écrivains, histoire de piéger mes camarades. Et là, il s'agit de retrouver un poète. Mais je vous dis pas de quel pays, tiens, parce que autrement...
Ni la date, ni la date.
Ah, ni la date, d'accord.
En fait, on va rien dire, en fait. Alors, un poète...
René Char.
Allez, on propose des poètes.
Pour Edmé Dominguez, qui habite Moule, dans le Pas-de-Calais, j'aimerais que vous retrouviez tout simplement le nom de ce poète. Mort des complications de son asthme dont il souffrait depuis l'enfance. D'ailleurs, hommage lui est rendu dans un film qui s'appelle « Fraises et chocolat » tourné en 93. Il était homosexuel et il s'est fait connaître pour sa poésie précieuse, hermétique, proche de Stéphane Mallarmé. Ah, oui. Sa secrétaire, qu'il épousa bien qu'il fût homosexuel, s'appelait Maria Luisa Bautista.
C'est Zorro.
Il portait le nom d'une capitale. Capitale dont il n'était pas originaire.
Octavio Paz.
Salvador.
Paz, oui, Paz.
Non.
Mais Octavio Paz, c'est pas les bonnes
non,
dates.
Non.
Et Jorge
Lima,
Luis Borges.
Pardon. Lima. Lima. Bonne réponse.
Gérard. Mais quel.
Gérard.
Merci Gérard.
José Lezama Lima.
Ah bah non.
Si, José Lezama.
Mais il est mort en 67.
Mais bien sûr. En 76.
Gérard, j'ai une question. Tu l'as dit au hasard ou.
Pas du tout, c'est de la géographie.
Il te prend vraiment pour un con, hein.
C'est une capitale, Lima, ou pas?
Oui,
c'est le Pérou.
Et c'est un film qui a été tourné à Cuba, ça.
Alors, il était cubain, José Lezama Lima. Je réussis quand même à avoir des réponses.
Fraises et chocolat, c'est cubain, je
crois. Ah oui, c'est pas mal. Bon, là, je vous demande l'œuvre. Là, l'écrivain, vous allez très vite le trouver, mais je vous demande de, tout simplement...
Vous n'avez pas un truc pour moi?
Oui, mais ça, vous êtes capable de le trouver, monsieur...
Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans la raclette?
Non.
Non,
je vous demande de retrouver le titre d'une nouvelle fantastique, une nouvelle écrite à Saint-Pétersbourg, et c'est Nuit d'hiver chez le lieutenant Narumov. Il y a 5 jeunes gens qui passent leur temps à jouer, ils en viennent à discuter du pouvoir de la comtesse Fedotovna, qui est la grand-mère de l'un de ces jeunes. Paul Tomsky. Et la vieille dame connaît une combinaison secrète...
La dame de pique.
La dame de pique. Bonne réponse. De qui?
Pouchkine.
De Pouchkine. Oui, monsieur. Non. Monsieur Moix.
Moi, j'allais dire, faut pas pousser mémé dans les orties.
Dernière question, puis après, on reviendra, évidemment, à des choses plus basiques, plus simples.
Non, mais on peut rester comme ça jusqu'à la fin.
Non, parce que moi, même moi, je vais m'ennuyer. Je vais vous donner un poème, il s'agit d'en retrouver l'auteur. J'ai l'impression d'être Julien Lepers.
Ouais, c'est ça.
Indice pour vous à la maison qui s'affiche.
C'est pour Clément Simon, qui habite Saint-Martin-du-Riage. Force vieux soldats affamés, mal habillés, mal armés, sont ici couchés sur du chaume qui raconte les grands exploits qu'ils ont faits depuis peu de mois. Voilà comment ce poème, mais qui en est l'auteur ?
C'est pas Apollinaire. Ça parle de Napoléon, ça ?
Ah, ça. Alors écoutez, c'est Une nuit de soldats, le titre du poème.
C'est l'armée napoléonienne, non ?
Non, j'écris mon infortune en vers.
Alfred de Vigny.
D'un tison contre une muraille. Non, c'est un poète du. Alors on va dire du XVIIe siècle.
Ah, du XVIIe.
Paul Scarron ?
Non. Là, je crois que j'ai monté le niveau trop, vous voyez. Ça me fait plaisir. Je vais
le
enfin.
Marquis des Anges ?
Non, je vais
on
enfin.
On pourrait le connaître pour autre chose.
Il y a une porte à Paris.
On pourrait le connaître pour autre chose.
Ah ben, on pourrait le connaître pour son prénom. Je peux peut-être vous donner son...
Ah, ouais, Charles, allez-y, monsieur.
Honora, il s'appelait Honora. Honora. Honora de quelque chose.
Honora.
J'ai été les chercher loin, mes questions.
Une petite charade,
un petit rébus. Il a fallu que je déterre un poète cubain, un écrivain polonais.
Honora de Charleville de Mézières.
Non, et vous voyez, je termine par un pauvre poète du XVIIe siècle. Il était orphelin à 12 ans.
Je l'ai pas croisé.
Destiné aux armes. Voilà. Son premier grand amour lui a échappé. Elle s'appelait Catherine Chabot. Et puis...
Arlette Chabot.
La sœur d'Arlette.
Non. Alors, désespéré, il va publier ses premiers poèmes sous le titre Bergerie, qui a eu un succès considérable à l'époque.
Oui.
Et puis après, il a composé une ode au cardinal de Richelieu, qui, évidemment, l'a nommé membre de la toute neuve Académie française.
Est-ce que c'est deux saints?
Non, c'est pas deux saints.
Non, il n'y a pas saint dedans.
Allez, les 300 euros vont s'en aller bientôt.
Ça commence par quelle lettre?
Non, on n'en est pas aux chiffres et aux lettres ici, vous savez. Ici.
Oui, Paul, où tu trouves,
consonne,
pas.
Consonne.
Ici, comme dirait Ariel, où on sait, où on sait pas, hein, Ariel.
Exactement.
Bah, elle sait pas. Enfin,
quand même. Bon, nous, on ne sait pas ou on ne sait pas.
On aura de Clignancourt.
Ah non, c'est pas. Non, mais alors on oublie les portes. Hein, c'est plus.
Brançon.
Briançon, non.
Brancion.
Brancion, oui. Je sais pas pourquoi je dis Briançon.
Courneuf de Montrouge.
Ah non, Courneuf de Montrouge.
Ça se termine par un Y. Là,
ça se termine pas par un Y. C'est marrant, ils ont les mêmes tics les deux.
Fouve de Morville.
Ça doit être des jumeaux.
Ah. Allez, 300 euros qui s'en vont. Est-ce qu'à tout hasard, quelqu'un serait un spécialiste de la poésie médiévale ?
Et du dictionnaire français.
Ou du dictionnaire français. Il s'agissait du marquis de Racan, Honora de Bueil de Racan. Voilà le nom de ce poète.
Vous promets, je vais dans mon Larousse. Alors, vous l'avez trouvé dans le Robert. Ils n'ont pas les mêmes. Hein, parce que moi, je vais dans le Larousse, je vais essayer de le trouver.
Alors, on gueule pas sur le patron. Hein.
Mais je parle correctement.
Oui, bien sûr. Mais
quel aplomb.
Est-ce que je sais, moi, s'il est dans le Larousse ou dans le Robert?
C'est n'importe quoi, là-bas. Moi, je sais pas. Hein.
Qui était le beau-frère de mon garagiste, en sans le courrier, tu vois.
Vous pouvez c'est pas vrai, je l'ai pris dans le dictionnaire de
et
la.
Ben il est dans le dictionnaire, mon.
De la littérature française.
Ah, il doit pas être dans Larousse. Hein, parce que...
Honora de Bueil de Racan, le marquis de Racan, à qui on doit des stances sur la retraite, ou encore un poème, enfin plutôt un recueil de poèmes qui s'appelle Bergerie. On l'appelait Racan, hein, si vous préférez.
Oui, oui. Ouais. Des fois, on l'appelait l'autre.
On l'appelait Racan.
On l'appelait Nono.
Bon, on est content, hein, parce que de toute façon, on ne le rappellera plus.
Et Racan, ben, amène-toi.
C'est en tout cas une bonne question de Laurent Ruquier. Ah ben voilà une question contemporaine, parce qu'on en parle beaucoup dans les journaux en ce moment, et on cherche comment lutter contre le blurring. Mais qu'est-ce que le blurring ?
C'est flouté. C'est blur, ça veut dire flou.
Oui, mais ouais. Qu'est-ce que le blurring ?
C'est le fait d'écouter beaucoup le groupe Blur ?
Non, pas du tout.
Quand dans les reportages, on floute les publicités, par exemple.
Non,
les enseignes.
Non, 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 on floute pas de visage dans le blurring. C'est quelque chose...
C'est sexuel ?
Ah, ce n'est pas sexuel, le blurring. Et ça concerne de plus en plus les Français. Et voilà pourquoi, effectivement, il y a pas mal d'articles dans les journaux en ce moment pour dire comment faire pour lutter contre ce phénomène qui s'accentue.
C'est un rapport avec les masques ?
Non, le phénomène du blurring.
Un rapport avec les téléphones portables ?
Les téléphones... Alors oui, c'est indirectement lié au fait qu'on ait des téléphones portables, oui.
Ah, est-ce que c'est
de
le
faire
fait...
une dépression quand on perd son portable ?
Non, non,
non. C'est d'avoir des notifications en permanence sur nos portables.
Donc, plus
donc,
exactement.
Ça veut dire que, quel que soit le moment de vie,
ah, oui,
on est interrompu par... des mauvaises nouvelles.
Ah, je sais.
Non, c'est un phénomène de manque.
C'est attention deficit. Non, ça veut dire que...
Pardon. Mais on n'est pas... Il faut parler.
Non, mais ça veut dire
bien
que...
son trouble.
Les Français parlent au français.
On a tellement d'informations, on reçoit
alors,
une telle pluie.
On se rapproche, là, évidemment.
C'est la géolocalisation.
Pardon.
La géolocalisation.
Non. Ça y est, je crois que je sais. C'est le fait qu'en fait, on ne puisse pas vivre peut-être une minute de notre vie sans être interrompu par une notification.
Alors, on se rapproche.
C'est comme qu'on passe dans une rue.
Non, non,
et hop,
non,
on voit une chaussure, hop, dans une pub
toute
de chaussures.
Sa vie privée.
Pardon.
Raconter toute sa
non
vie
plus. Privée.
Quand on mélange des informations, qu'on les hiérarchise
alors,
pas.
Alors, c'est quand on mélange deux choses. Ça, c'est vrai. Mais quoi?
Ça rapporte les réseaux
un visage, c'est le téléphone et le direct.
Le virtuel et le réel.
Non, non, non. Bah,
c'est-à-dire que tu bouffes avec quelqu'un, tu veux le sel, tu lui téléphones, il est en face de toi, passe-moi le sel. C'est ça, non?
Ça, ça m'est arrivé dans un restaurant.
C'est vrai?
C'est-à-dire que c'était tellement long, je suis passé par Deliveroo et je leur ai demandé de me livrer.
Non.
Et le mec est arrivé avec...
Non.
Ça va tellement plus vite par Deliveroo.
Mais vous avez commandé dans le même restaurant?
Bah oui.
Ah bah oui. Attendez. C'est...
Or, le mais non, c'est pas vrai.
Le blurring.
Est-ce que ça se rapproche du ghosting? Le ghosting, c'est disparaître sans laisser trace.
Ah, ça, c'est les salopards qui font ça. Oui, d'ailleurs, oui. Ça peut être vrai dans l'autre sens, mais les femmes peuvent le faire aussi. Mais effectivement, c'est quelqu'un...
C'est quoi, ça?
Tu réponds plus du tout. C'est-à-dire, t'as couché et après...
Ghosting.
L'autre a beau t'envoyer des messages, qu'est-ce que c'était bien hier soir, c'était super.
Moi, je réponds parce que je couche pas.
Quand est-ce qu'on se revoit? Jamais, jamais de réponse. Ça, c'est faire le fantôme. Ghoster quelqu'un.
Mais ça a un rapport avec les sites de rencontres ou pas?
Les sites de rencontres, non.
Des trucs de livraison?
Non plus.
Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose de visuel ou de sonore?
Non.
Ça a un rapport avec sa personnalité propre?
Ah, vous voyez, quand je pose des questions contemporaines qui n'ont rien à voir avec l'histoire, la littérature... Je...
Vous n'avez pas déjà...
Oui. La c'est culture. Le fait que chaque fois qu'on dit quelque chose, on ne peut pas s'empêcher de vérifier...
Non plus. Ah. Non. Mais c'est vrai qu'on le fait, ça, mais c'est pas ça.
C'est le fait qu'on ait un roulement de tambour avant une question fausse.
Avant une réponse.
Donc ça, entre le téléphone et la vie réelle.
Alors. Non, c'est pas seulement le téléphone. Vous êtes
Internet.
Internet, évidemment, est mêlé à ça aussi, ça va de soi.
Est-ce que ce n'est pas créer un avatar? Aller sur le métaverse et ne non mais oui
c'est regarder
et ne
le téléphone
s'intéresser au réel
métaverse parce qu'il fait froid mais autrement
c'est regarder son téléphone pour repérer.
Vous êtes trop resté braqué sur le téléphone, même si le téléphone est évidemment un élément important du blurring, mais vous êtes très loin de la bonne réponse tout en étant tout près, et tant pis. 300 euros pour monsieur Charles Jex qui habite Toulouse. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du blurring dans la salle? Il y a une jeune femme au premier rang, Ariel, si vous voulez bien y aller, et une dame au deuxième rang. Et deux mains qui se lèvent pour 100 euros.
Alors, mademoiselle, je vais vous demander votre nom.
Chiara.
Chiara, est-ce que vous avez la bonne réponse?
J'espère. Est-ce que ce serait le fait de devoir utiliser son téléphone, par exemple pour scanner des QR codes, etc.
Ah non, du tout, mademoiselle.
Alors, je crois qu'il y a une dame qui, Bernard, ici, va nous dire quelque chose. Vous vous appelez comment?
Ne te penche pas trop.
Catherine.
Alors, Catherine.
On voit la culotte.
Non. Alors, Catherine, qu'est-ce que c'est que le blurring?
Baisse le capot, on voit le moteur.
C'est le mélange de la vie privée, la vie professionnelle.
Excellente réponse, madame.
Ah, voilà, bravo.
Le blurring, c'est quand la vie professionnelle se mélange avec la vie personnelle, c'est-à-dire que vous êtes sollicité H24, parce que, et c'est vrai que le télétravail ces deux dernières années n'a pas forcément arrangé les choses, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps obligé de répondre à des mails ou à des coups de fil professionnels, c'est-à-dire que la vie professionnelle ne s'arrête plus. La frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est devenue floue. Ça, c'est ça le blurring.
D'accord, mais ils auraient dû prendre un mot qui a un rapport avec frontière.
Et c'est en tout cas un phénomène qui s'accentue chez les cadres particulièrement. Bah moi, par exemple, parfois, à 21h30, je suis encore en train de chercher des écrivains cubains.
Oh
et ben, c'est ça, le blurring.
RTL, le livre du jour.
Ah, le livre du jour est signé Michel Sapané. Je ne vous donne pas son métier à Michel Sapané. Et pourtant, il a déjà fait 4 ou 5 livres qui nous raconte justement le quotidien de son métier. J'espère d'ailleurs pour lui qu'il n'est pas victime du blurring, ce dont on vient de parler, le flou entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais je vous demande quelle profession exerce Michel Sapané, qui publie chez Plon les chroniques d'un...
D'un croque-mort.
Alors un croque-mort, non, mais on n'est pas loin.
Un médecin légiste.
Bonne réponse de Paul Elkarat. Oui, j'espère que vous ramenez pas trop de travail à la maison, Michel Sapané, bonjour.
Bonjour Laurent, non, ça arrive, hein. Pour les bouquins en particulier.
Ah bah évidemment, pour écrire, ça c'est sûr. Voilà. Chronique d'un médecin légiste, j'ai dit que ça n'était pas votre premier, et c'est vrai, vous avez déjà publié de nombreux livres sur votre profession, votre métier, qui a beaucoup évolué. Vous expliquez que vous étiez un artisan au départ, c'est au début du livre d'ailleurs, et depuis vous êtes une petite entreprise carrément, il y a 30 personnes qui travaillent avec vous.
Oh là.
Tout à fait, c'est une PME, l'équivalent.
On vous a confié une mission officielle, on va dire, c'est ça?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire ?
Oui, mais vous voulez pas me dire laquelle, alors
Là, je voulais deviner un peu.
Bah, visiblement, non.
Mais il n'est pas habitué que ses clients parlent.
Hein. Non, mais...
Si, il les interviewe très bien, d'ailleurs.
Il y a eu une grande réforme en 2011 qui a permis de créer... mais puisque vous avez oublié, je vous le dis. qui a permis de créer un institut de médecine légale. Et on vous a confié cet institut. C'est bien ça, monsieur Sapané ?
Voilà, c'est exactement ça. Ça s'est passé sur toute la France et ça a complètement transformé le paysage de ma profession.
Alors, vous racontez, et ça, alors là, moi, ça m'a épaté, des tas de choses que j'ignorais. Par exemple, l'histoire du thermomètre. Et dire, c'est assez rigolo parce que vous dites que dans les enquêtes, à l'époque, évidemment, ça a bien changé, dans les enquêtes du commissaire Bourrel ou même Maigret, on demande toujours à quelle heure est mort la, où est morte la victime, vous voyez.
Et, Paul va répondre.
Et à l'époque, la façon qu'on utilisait, la façon de savoir à quelle heure à peu près quelqu'un était mort, c'était de lui prendre
le foie, la température du foie.
De lui prendre sa température.
Et, voilà.
Et vous dites, on voyait rarement, c'est vrai, ce moment où on va dire le médecin légiste foutait le thermomètre dans le cul de la victime.
Oui, alors on a fait quelques progrès. D'abord, c'est pas n'importe quel thermomètre. Il faut un thermomètre à viande, il faut pas un thermomètre médical.
Ah oui,
à viande.
Est-ce que je peux poser une question à monsieur Sapané?
Bien sûr, mais je reste là-dessus un instant.
Ah
parce
d'accord,
que
sur le thermomètre.
C'est pas sur le thermomètre, c'est que justement, régulièrement, on vous demande, mais alors vous prenez pas la température de la victime, et là vous répondez, ben non, ça ne sert à rien.
Non, alors c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que ça sert à certains moments après le décès. C'est-à-dire qu'on a une tranche de quelques heures où c'est relativement précis, mais avec une précision qui varie quand même à plus ou moins 3 heures. Donc imaginez que l'heure du crime va être datée à la minute près avec le thermomètre du légiste qui l'a enfoncé profondément dans le cul ou ailleurs, ce n'est pas la réalité.
Voilà. Alors ce qui est curieux, c'est qu'au milieu de votre livre, vous donnez la recette du faisan farci.
Oui. Alors, j'adore cette recette. Il faut une bonne poule, bien grasse de préférence, une poule faisane, bien sûr. Et puis, vous allez la dépecer, pas tout à fait comme un homme. Vous la mettez sur le ventre, vous enlevez la peau du dos, et après, vous raclez les chairs au ras du squelette. Vous virez le squelette, vous n'oubliez pas de couper les pattes, évidemment, et ensuite de mettre à l'intérieur du foie gras, du quinoa et un petit peu d'oseille pour donner de l'acidité.
On peut faire ça avec n'importe quel cadavre.
Volaille de préférence. Donc, il n'y a rien de mieux que la poule.
Bon, écoutez.
C'est terrible. Monsieur Sapané, est-ce que...
Sapané,
oui, avant...
Satané, Sapané.
Ah, oui.
Est-ce que c'est vrai qu'avant, pour connaître si quelqu'un était vraiment mort, on lui mordait l'orteil?
Ça, c'est le croque-mort qui faisait
alors,
ça.
Alors, ça, c'est le croque-mort, mais alors, ça serait peut-être à l'origine de l'expression pompe funèbre.
Ah oui, les pompes, les fameuses pompes funèbres.
Oui, alors je ne sais pas si vous connaissez, en fait, ça se passe au fin fond du Far West, pour la conquête de l'Ouest, et il y a le croque-mort du coin qui n'en peut plus, il est submergé de travail, il veut laisser sa boutique à sa fille, qui connaît bien le principe. Bon. Et donc, avant de partir, pour 3 jours à la pêche, il lui dit, écoute, surtout, n'oublie pas, avant d'enterrer qui que ce soit... tu croques dans l'orteil pour vérifier qu'il est bien mort, parce qu'il y a tellement d'alcooliques et d'ivrognes que sinon tu risques d'enterrer un mec vivant. Il s'en va, il revient au bout de 3 jours, trouve sa fille en pleurs. Eh ben ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé, ça va pas? Ah papa, tu peux pas savoir, non. On a enterré Joe. Joe, oui, et je me souviens pas. Mais si, Joe, le cul de jatte.
On t'a reconnu, dites-moi, Jean-Marie.
Dites-moi, Laurent, quand je claque, je veux que ce soit lui qui me découpe. Hein. Il est trop drôle.
Vous avez du temps devant vous. Il donne des bons conseils aux criminels. Quand vous voulez noyer quelqu'un dans une baignoire, vous pensez que les gens vont penser qu'il s'est noyé tout simplement et que...
Non, parce que l'eau qu'on trouve dans les poumons n'est pas la même que celle...
Ah, c'est pas seulement ça, parce que les criminels...
Moi, je veux pas dire que j'ai réfléchi à comment...
Les criminels pensent qu'il suffit d'appuyer sur la tête par surprise et de pousser fortement,
c'est
mais dans la réalité, écrit Monsieur Sapané, la noyade criminelle déguisée en accident de baignoire, ça existe, mais ça laisse des traces. Parce qu'en effet, lors de son immersion forcée, la victime se débat avec l'énergie du désespoir, c'est une question de survie quand même, donc le résultat final manque vraiment grande discrétion, puisque la victime va se cogner contre les parois de la baignoire, et donc il va y avoir des petites lésions un peu partout, et contrairement à ce qu'on croit, ça laisse des traces quand on noie quelqu'un dans une baignoire.
Ah oui, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors...
Eh ben c'est simple.
Non, mais pour tuer quelqu'un, on fait une piqûre avec une seringue vide.
Non, non, c'est pas un bon plan, parce qu'il vous faut une telle quantité d'air...
Ah, trop tard.
Ça va pas le faire.
Autopsie, c'est le titre du livre de Michel Sapané. C'est passionnant, évidemment, c'est publié chez Plon. Les chroniques d'un médecin légiste, c'était le livre du jour. Une question pour Monsieur Pierre Duval, qui habite Reuilly, dans l'Indre. Le 12 août 1995, Véronique Beau a fait la même chose que le 12 août 2015. Vous aurez compris qu'il y a donc, si mes calculs sont bons, 20 ans entre les deux dates, mais elle a choisi la même date, le 12 août 1995 et le 12 août 2015, pour faire quoi ?
Accoucher ?
Accoucher, non.
Véronique, vous dites ?
Véronique Beau.
C'est un exploit,
quelqu'un ?
Un exploit sportif ?
Un exploit sportif, non.
Se marier ?
Pardon ?
Se marier ?
Se marier, oui.
Avec le même la même personne ?
Avec la même personne, oui. Mais qui ?
À qui il faut trouver
avec Monsieur
un chanteur, un chanteur.
Est-ce qu'il est décédé
Non, il est toujours vivant. Et évidemment, si vous avez donné son nom à lui pour commencer, ça aurait été moins rigolo.
Oui.
Mais effectivement, ils ont choisi l'un et l'autre de se remarier à la même date, à 20 ans d'écart.
Est-ce que ce monsieur est français ?
Oui, il est français.
C'est un artiste ? La voix ?
Artiste, non.
Un homme politique ?
Un homme politique, oui.
Fabius ?
Fabius, non.
Mais il est très vieux, le monsieur ?
Oh, il n'est pas très vieux. Il est né en 1963, vous voyez, une quarantaine d'années, comme moi.
Villepin ?
Non, pas Dupond-Moretti.
Villepin, non.
Il est de droite ?
Non, il n'est pas de droite.
Ah, Bernard Cazeneuve ?
Bernard Cazeneuve, bonne réponse.
Vous avez le même âge que Bernard Cazeneuve.
Pardon ?
Vous avez le même âge que Bernard Cazeneuve.
Oui, écoutez, oui.
Vous faites beaucoup plus jeune.
Et il est plus âgé que Jean Castex, Laurent Ruquier. C'est fou, hein ?
Dites, ça va, vous
Ah ouais, ça, Castex, ça a pas de qualité, les gens qui connaissent les dates de naissance.
C'était parti pour être un compliment, mais...
Mais en même temps, vous avez le même âge que Brad Pitt, c'est bien.
J'ai le même âge que Brad Pitt.
Et que Johnny Depp.
Ben, bien sûr.
Un peu le même physique.
C'est ça, les mecs.
Ah, les 63, c'est bien.
D'ailleurs, la carrière à Hollywood m'attend.
Ah, bah oui.
Vous n'êtes pas loin de Gérard Larcher.
Plus loin que vous. Bernard Cazeneuve a épousé Véronique Beau à deux reprises. C'est beau, on trouve, se marier.
Ils ont que ça à foutre. Hein.
Non, mais. Ils s'étaient.
Mais sans avoir divorcé.
Ah, si. C'est pas.
Ah, donc comme Robert Taylor et.
C'est pas se remarier parce qu'on vit ensemble. Puis on veut faire une deuxième fête. Non. Ils s'étaient séparés, divorcés, et ils ont dû se remarier après une séparation qui a duré 3 ans, un divorce. Il y a eu le quinquennat de François Hollande et ils se sont remariés en 2015.
Il y a un ancien grosse tête qui voulait faire la même chose, divorcer de sa femme pour l'épouser, c'était Léon Zitrone.
C'est vrai.
Ouais, il avait dit que son rêve c'était de divorcer
Laura.
Sa femme.
Elle s'appelait Laura.
Pour la réépouser tout de suite.
Est-ce que c'est vrai que Léon Zitrone parlait 7 langues ?
On s'en fout, non ? Je sais pas.
On s'en fout du nom.
Je dis ça, je veux pas être un ingrate, mais...
Tu lui demanderas.
Oui, tu lui demanderas.
Quand il va revenir en voilà. Grosse tête.
Et si tu vois, tu diras qu'il me rend mon peine.
Pour Louis Bongza, qui habite Paris 20e, j'aimerais qu'on retrouve maintenant le nom d'un économiste français qui fut longtemps associé à Antoine Pinet. Il avait aidé Raymond Poincaré à rétablir le franc en 1938. Et il termina d'ailleurs académicien français. Il fut même, il faut le dire, jusqu'à sa mort, chancelier de l'Institut de France.
Oh, ouais.
Et cet académicien français, on le connaît aussi parce que tout simplement, on lui a donné un très joli lieu dans Paris, au milieu du Champ de Mars. De qui s'agit-il ?
Monet.
Non, Monet, non.
L'école militaire.
L'école militaire, non.
Il est très connu.
Ah bah, quand
Brancion.
Comment vous dites ?
Brancion.
Brancion, non.
Jacques Soustelle ?
Ah non. Académicien français qui, effectivement, a joué un rôle majeur dans la vie économique de notre pays. Le plan Pinet, le plan de...
La rente Pinet.
Oui, voilà. C'était évidemment un libéral.
Jean Monnet ?
Jean Monnet, non. Et là, au milieu du Champ de Mars à Paris, une place qui porte son nom.
Poney.
Comment vous dites ?
Les poneys du Champ de Mars. Non, ça n'a rien à voir.
Lowendal ?
Non, il est né en 1896 et il est mort en 1978.
Est-ce qu'il s'appelle Pierre ?
Non, il s'appelle pas Pierre.
Jean ?
Jean non plus.
Jacques ?
Non, Jacques.
Goldman ?
Paul ?
Jacques, oui, il s'appelle Jacques.
Bah, Jacques Soustelle ?
Non.
Ah non, non.
Ruffet.
Jacques Ruffet. Bonne réponse de Yann Moix, aidé par Bernard Mabille. Maintenant, je vais demander pour Cristina dos Santos Suarez, qui habite Villeneuve-le-Roi. Quand vous voyez un Puntirello, que fait-il ?
Il vous vole votre sac ?
Non.
Il sort son épée.
Alors, c'est pas une épée, mais...
Sa dague.
Ça ressemble à une épée. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec cette épée ?
On le voit venir.
Ça ressemble à une épée ?
C'est-à-dire ?
C'est celui...
Ah, oui, c'est celui qui pique
le taureau. Il pique pour mettre à mort à la
Les banderilles, les banderilles.
C'est celui qui met à mort une fois que le combat est terminé.
Non, quand il achève le taureau.
La bonne réponse vient de Yann Moix, confirmée par Gérard Jugnot et Bernard Mabille. C'est celui qui achève le taureau lorsque le matador ne l'a pas tué. Bonne réponse de Yann Moix. Vous êtes déjà allé voir une corrida ?
Non.
Non, par solidarité.
Mais Matador... Je ne suis pas castré, moi, monsieur.
Ah bah, les taureaux non plus.
Matador, ça veut dire tueur.
Matador, ça veut dire tueur.
Oui, c'est vrai, monsieur Gignot.
Ah, merci,
Gérard. Avouez que c'était une question à la portée de tous. Comme celle qui vient, d'ailleurs, puisqu'il s'agit de retrouver un vent pour Christophe Chilou, qui habite Coudekerque-Branche.
Le Sirocco. Un vent ?
Oui, un vent.
Le Sirocco.
Alors... Pas le Sirocco.
L'Armatan.
Le Sirocco, il vient du sud-est, hein, on est d'accord. La Tramontane, elle vient du nord. Moi, je vous demande le vent qui vient de l'ouest.
Ah, le Mistral.
Le Mistral, il vient du nord-ouest.
Vers l'OTAN.
Vous avez là, j'ai l'étoile, enfin plutôt ce qu'on appelle la rose des vents sur la mer Méditerranée. Vous avez la Tramontane au nord, vous avez le Sirocco au sud-est, le Mistral au nord-ouest.
Ah, je sais. C'est le Cherki.
Non, c'est pas le Cherki.
Le Simoun.
Non, c'est plus simple, beaucoup plus simple.
Est-ce qu'il y a un film qui porte ce nom ?
Pas un film,
mais
il y a des bateaux qui portent.
Oui, c'est le Ponant.
Le Ponant. Ah oui. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est le Ponant. Il est dans le vent, Gérard.
Bravo, Gérard.
Ah, ça c'est une question culturelle un peu compliquée, mais je vais la tenter aujourd'hui, c'est le jour ou jamais, oui. Vous êtes d'accord. Oui. Pour Thierry Dupuis, qui habite Baudricourt, dans les Vosges, vous connaissez peut-être la fontaine Saint-Sulpice, qui se trouve devant l'église Saint-Sulpice à Paris, et on y voit quatre évêques prédicateurs représentés sur cette fontaine Saint-Sulpice. Vous y avez Fénelon, vous y avez Bossuet, vous y avez Massillon, et je vous demande tout simplement, quel est le quatrième évêque prédicateur qui figure sur cette statue, en plus de Monsieur Bossuet, de Monsieur Fénelon et de Monsieur Jean-Baptiste Massillon.
Esprit Fréchier.
Pardon ?
Esprit Fréchier.
Comment vous dites ?
L'esprit Fréchier.
Esprit Fréchier.
Non.
Fréchier.
Non, mais vous n'êtes pas loin. Mais
c'est, mais...
Fréchier.
Non, son prénom, c'est Esprit.
Oui.
Esprit.
Frichti.
Esprit. Esprit, es-tu là ?
Attendez. Esprit Féché.
Il manque une lettre.
Fréché.
Non.
Fresquier.
Fréché. Esprit Fléchette.
Fréchière.
Aidez-vous de ce que vient de dire.
Esprit Fléché.
Esprit Fléché. Bonne réponse. Esprit Fléchier. Et il fait vraiment chier, d'ailleurs, autant vous dire.
Il est moins connu que les autres.
Hein. Ah oui, il est moins connu que les autres. Esprit, il y a une rue Fléchier aussi dans Paris. Et je pensais durer 4 minutes avec ça, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Esprit Fléchier.
C'est les quatre, en fait, qui ont reçu les l'extrême onction de personnalités très célèbres sous Louis XIV.
Plutôt qu'ils l'ont donné, pas qu'ils l'ont reçu.
Oui.
Ils l'ont reçu eux-mêmes aussi. Ils l'ont donné.
Est très utile pour les déviations.
Esprit Fléchier. Oui. C'est joli de s'appeler Esprit, quand
esprit
même.
Esprit Fléchier.
Bon, son vrai nom, attention, il avait un autre prénom.
Ça irait pas à tout le monde. Hein.
Mauvais esprit.
Oh oui.
Valentin Esprit Fléchier, un homme d'église, prédicateur, effectivement, qui a le droit à sa statue à Paris, au même titre que Massillon, Bossuet et Fénelon. Ils sont tous les quatre sur la place Saint-Sulpice.
Le roi... Non. Le roi se meurt, le roi est mort. Ça, c'est Bossuet.
Oui, alors écoutez.
Non, pas du tout. Hein. Ah, non, pas du tout.
C'est Madame Sommer.
Il est mort avant le décès de Louis XIV, ça pouvait pas être lui.
Je crois que c'est Bossuet, faites mais attention.
Je crois que c'est pas.
Non. Faites attention.
Je crois
en
que c'est
plus,
Madame.
Elle te met en garde.
Je crois que c'est Madame qui.
Ah, c'est peut-être Madame.
C'est Madame Sommer.
Madame Sommer, Madame est morte.
Absolument.
Pour voilà. Bertrand Creux.
Ah, c'est mieux. C'était pour Henriette.
Ça tombe bien au moment où je vous parle. Pour Bertrand Creux, Monsieur Creux habite la Gouenière.
Ouais.
Dans l'Ille-et-Vilaine. Là, je vais vous demander de retrouver le nom. Alors, voilà quelqu'un, tiens, alors pour le coup, qui avait un nom curieux, qui fut lui aussi académicien français. Il a publié son œuvre la plus connue, et là je vous demande de noter, Caroline, parce que...
Je note, je note tout.
C'est un gros indice quand même, le fait que je vous donne son œuvre la plus connue.
Caroline.
Publiée en 1819. Son œuvre la plus connue, c'est La Panhypocrisiade ou La Comédie infernale du XVIe siècle. C'est un texte qu'il a terminé sous le consulat, ce
sous
poète.
Sous la torture.
Ce poète.
Non, franchement, j'ai fini la lecture sous la torture.
Non, mais pourquoi je vous parle de ce poète?
C'est qu'il est...
La Panhypocrisiade.
Voilà, exactement. Je vous en parle parce qu'il fut fermement opposé à l'élection de Victor Hugo.
Ah, j'ai trouvé.
À l'Académie française.
J'ai trouvé.
Ah.
Et ironie du sort, quand Victor Hugo fut enfin élu, c'est Hugo qui va lui prendre son siège.
Parce qui va mourir.
À l'Académie.
Je l'ai.
C'est Sainte-Beuve.
Non, je l'ai.
Sainte-Beuve.
Je l'ai.
Sainte-Beuve, non.
Je l'ai, c'est Népomucène Le Mercier.
Excellente réponse.
Ah non, je ne savais pas.
Alors, il y a quelqu'un, et si vous passez devant la plaque de la maison dans laquelle il est né, il y a quelqu'un qui est victime d'une terrible erreur. Puisqu'on s'est trompé sur la date exacte de sa mort sur la plaque censée lui rendre hommage. Et on n'a pas changé, d'ailleurs, depuis. C'est fou, quand même.
Miséricorde.
C'est pas sympa, quand même.
À Paris.
Il viendra pas se plaindre.
Il est mort le 16 mai 1830, voyez. Et sur sa plaque, plaque de bronze qu'on peut voir sur sa maison natale, c'est marqué 16 mars au lieu du 16 mai, alors que...
Oui. Ah oui, parce que c'est pendant les Trois Glorieuses.
Non, pas du tout.
C'est un militaire. J'ai une idée de qui ça peut être.
C'est un mathématicien et physicien.
C'est Charles Fourier.
Pas Charles.
Joseph Fourier.
Joseph Fourier. Bonne réponse. Avouez, Gérard, que vous seriez passé devant la maison de Joseph Fourier, vous auriez dit...
Bah oui.
Ils ont fait une connerie sur la date.
Elle est où, cette maison?
Oui, elle est où? Parce que j'aimerais bien y aller en pèlerinage.
Elle est à Paris, évidemment. J'ai pas l'adresse exacte.
Je vous renseignerai, je
peux vous la donner.
Paul doit l'avoir.
Ouais, dans mon carnet de notes.
Pour un mathématicien, ils sont gourés dans les calculs.
Mais c'est ça. D'abord, il est mathématicien, il est physicien. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est comment il est mort. Parce qu'il est connu, enfin connu ou pas d'ailleurs, hein, Joseph Fourier.
Ouais, il a pas occupé de place dans mon cerveau.
Si en mathématiques, c'est pas utilisé tous les jours.
Ah non. Sa méthode de calcul permet de passer d'une fonction à la série trigonométrique correspondante.
Oui, ça s'appelle les séries de Fourier.
Vous voyez.
Ah, moi, je sais. 2 plus 2, 4.
Non.
Il me semble que Joseph Fourier, c'était le maître d'Évariste Galois.
Alors attendez, la 3G et la 4G aujourd'hui découlent directement... non mais ce que je vous dis là est vrai.
Mais je vous crois,
Laurent. La 3G et la 4G, la compression d'image ou les normes de téléphonie découlent directement de ces théories, ces applications pour le traitement, la compression du son. Vous voyez quand même, donc c'est quelqu'un d'important dans la
vie. Oui, mais il n'a pas dû les faire très clairement, ces calculs, parce qu'ils ont mis longtemps à arriver à la 4G.
Faut que je l'appelle d'ailleurs.
C'est pas faux. Mais surtout, il était connu pour. C'est là où ça devient assez. Enfin, rigolo, c'est pas le mot. Mais il était connu pour avoir déterminé par le calcul la diffusion de la chaleur en utilisant la décomposition d'une fonction en une série trigonométrique convergente. Si vous voulez. Vous dormez, Gérard ?
Oui, oui.
Non, mais il a fait des études sur la chaleur.
Ça va être intéressant quand ils vont couper le gaz. Il va redevenir à la mode.
Mais vous croyez pas si bien dire, parce que justement, de quoi il est mort? Il est mort de froid. Parce qu'en fait...
Ah oui, c'est ironique.
Il haïssait le froid, et il s'est intéressé au problème de la conduction de la chaleur à cause de ça. Et ironie du sort, le 4 mai 1830, il ressent une douleur aiguë. Il continue à travailler, mais il va s'évanouir et il va mourir.
Oxyde de carbone.
Et il avait attrapé un
coup. Monoxyde.
Et là, Ariel.
Il a eu un coup de froid.
Mais non, mais il se couvrait.
C'est pas le 4 mai, c'est le 4 mars.
Il était obsédé par le froid toute l'année. Il se couvrait de façon absolument incroyable. Il avait froid du 1er janvier au 31 décembre, en passant par juillet et août. Et donc, il se couvrait comme s'il était au milieu des glaces polaires quand il se promenait dans Paris. Et au final, il est mort de chaud.
Ah bon ?
Non, mais vous avez dit qu'il était mort de froid.
Oui, mais de peur d'avoir froid, vous voyez ?
Oh là,
ah, oui.
Damar n'existait pas à l'époque.
Bon, il aurait mieux fait d'inventer ça au lieu de la 4G. Il n'a jamais utilisé.
Il n'a pas inventé la 4G. Oh, genre, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas.
Qui est qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL.
Benoît, 35 ans, et il va depuis les Vosges tenter de parier sur la bonne grosse tête, celle qui est capable de me dire qui est qui fait quoi. Bonjour Benoît.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Benoît ?
Je suis directeur dans une mairie.
Oh, quand même, Benoît, c'est votre nom, c'est bien ça ?
16. Oui.
Non, pas 16.
Ça, c'est qui ? Pas en ligne !
Il parle ça, bien français. Oui.
Le nôtre a 35 ans, n'est-ce pas, Benoît ? Et,
oui.
Et vous allez peut-être vous en rêver, partir à l'hôtel Parc Victoria de Saint-Jean-de-Luz, de nuit pour deux personnes, accès à la grande plage directement depuis l'hôtel. C'est un relais et château, ambiance art déco qu'on vous conseille. Et puis alors, vous allez manger. Il y a un restaurant gastronomique extraordinaire, conseillé. Vous verrez, il y a la nappe Bernard Mabille, qui n'a jamais été lavée depuis qu'il est passé là-bas. Allez voir sur parcvictoria.com et vous en saurez plus sur la piscine, le parc d'un hectare, la végétation.
Le parking.
Que vous pourrez admirer depuis la fenêtre de votre chambre magnifique.
Ah, il y a des fenêtres aux chambres ?
Dans cet hôtel Parc Victoria, au cœur de Saint-Jean-de-Luz. Vous connaissez Saint-Jean-de-Luz, Benoît ?
Saint-Jean-de-Luz, non, mais les Pyrénées-Atlantiques, oui, j'y suis allé l'an dernier. Ça m'a beaucoup plu.
Alors, donc, si ça vous a plu, vous allez pouvoir apprécier ce week-end. C'est magnifique, c'est au Pays Basque, évidemment. Vous êtes à Décimont dans les Vosges. Sur qui pariez-vous ?
Paul Elkarat.
Paul Elkarat.
Alors, c'est surprenant. C'est comme choix.
Moi, j'aurais dit...
Ah, parce que Yann Moix connaît peut-être mieux les noms qui font l'actualité que Paul Elkarat, mais c'est quand même un bon choix, Paul Elkarat. On va d'abord éliminer, évidemment, Monsieur Bernard Mabille, si vous le voulez bien.
Eh oui, allez, du sport.
Alors, Bernard, qui est Florentino Pérez.
Ah, c'est quoi, un cycliste ?
C'est le président du Real Madrid, vous êtes éliminé. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Thierry Piéton ?
Thierry Piéton, absolument, c'est le ministre des Transports.
Vous n'êtes pas loin, notez bien.
C'est l'adjoint d'Hidalgo ?
Non. C'est le directeur financier de Renault Group.
Ah, bah, vous voyez.
Vous voyez, quand même, hein, oui. On n'était pas si loin. Monsieur Junio, qui est Gilles Pélisson.
Ah, bah, c'est le directeur de TF1, non ?
Eh ben, bravo. C'est le directeur de TF1. Tout le monde ne le sait pas, Gérard. Bravo. PDG du groupe TF1, jusqu'à ce que monsieur de Taverneau, évidemment, hein, réussisse la fusion entre les deux chaînes. Gérard Jugnot est toujours là. Oh, monsieur Paul Elkarat, qui est Annick Girardin.
C'est une ministre.
Oui, mais de quoi ?
Ministre, oui.
Je vais t'aider. 1876-1923.
Non, c'est la ministre de l'handicap.
Ah non.
Non, c'est la ministre pas des personnes âgées.
Non plus.
Non, c'est c'est particulier comme ministère.
Ah oui.
C'est un nom à rallonge.
Non.
Non.
Ah bon. Ah non, Paul, là, vous êtes en train de vous tromper. Hein.
Oh la garce.
C'est la ministre de la femme.
Non.
Continue. Essaye de.
Mais c'est une ministre des trans. Non.
C'est pour notre auditeur.
Mais oui,
on lui laisse une chance encore.
Ministre. Non, alors ça ira plus.
C'est ministre du monde.
Ah, du monde. c'est la ministre de la mer, Annick Girardin. Oh. Vous êtes éliminée.
Ça existe encore, ça?
Ah oui, ça existe encore.
Oh, super.
La mer, non, mais le ministère, il existe toujours.
Mais Jacques Ralit.
C'est à vous, Madame Dombal. Vous
non, êtes... mais il faut qu'il rejoue.
Jacques Ralit. Ah, oui. Je me suis arrêté à Jacques Ralit.
Il faut qu'il rejoue, Benoît, effectivement.
Je suis désolé.
Benoît, je suis désolé, vous avez misé sur le mauvais cheval.
Tant pis.
Mais vous pouvez encore jouer pour 200 euros. Il vous reste en course Gérard Jugnot, Ariel Dombal et Yann Moix.
Yann Moix.
Voilà, bravo.
Merci, bonsoir.
Bah, Yann Moix est là, mais moi je serais de vous.
Non, non, mais là.
J'aurais choisi Gérard Jugnot, parce que Gérard Jugnot est déjà qualifié. Mais oui. Vous avez voulu prendre un risque.
Ah oui, c'est pas qu'il soit bon.
On va déjà commencer par éliminer Mademoiselle Dombal, Ariel, qui est Narendra Modi.
Oh. Narendra Modi est justement, incroyablement, la nouvelle secrétaire d'État.
Mais il va être auprès content.
C'est un homme, c'est le premier
ministre de l'Inde.
De l'Inde. Vous allez vous faire engueuler en rentrant à la maison ce soir, Ariel.
Oui, quel est son prénom ?
Narendra Modi, vous êtes éliminé. Monsieur Yann Moix. Pouvez-vous me dire, cher Yann, qui est Gabin Villiers ?
C'est un gardien de but de hockey sur glace.
Ah, c'est dommage, parce que c'est quand même du sport. Mais c'est un ailier de l'équipe de France.
De rugby. Handball.
Eh oui, vous êtes éliminé, monsieur Yann Moix. Et le grand gagnant est... Gérard Jugnot. Gérard quand même. Bravo.
Mais je suis désolé. Ouais.
Bah oui, mais vous avez fait chuter Benoît.
Mais oui, je suis désolé.
C'est pas bien.
Il a rien foutu, laissez-le tranquille.
Gérard, vous allez devoir peut-être faire
un geste
et envoyer peut-être réserver pour Benoît une chambre pour deux nuits à l'hôtel Saint-Jean-de-Luz.
Pour assister au mariage de Louis XIV.
Vous voulez une montre RTL, Benoît ?
Ah voilà, j'offre une montre RTL.
Quelle générosité, ce Gérard. Quel seigneur.
Vous voulez faire passer un petit message, Benoît ? Profitez-en.
Non.
Non, Benoît. Alors faites-moi plaisir, dites tout simplement, vous écoutez RTL, il est bientôt 17h.
Vous écoutez RTL, il est bientôt 17h.
Parfait, merci Benoît.
Ah. De rien.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Yann Moix, Paul Alcarat, Ariel Dombal, Caroline Diamant, Gérard Jugnot et Bernard Mabille. Une question pour Sylviane Cardozo, qui habite Lauzet, en Charente-Maritime, qui, au moment d'être guillotinée, s'est écrié « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ».
Oh, génial. Que c'est beau.
Guillotinée ?
Oui.
Pendant la Révolution, non ?
Pendant la Révolution.
Non, pendant une partie de
lui, il a dit
à l'âge de 45 ans.
Fabre d'Églantine,
non.
Robespierre,
45. Non.
Lavoisier. Je pense que c'est une femme.
C'est une femme.
Manon Roland.
Ah, bah,
Manon Roland.
C'est même la deuxième femme guillotinée pendant la Révolution.
Charlotte de Gouges.
Pardon ?
Olympe de Gouges.
Ah, oui.
Bonne réponse.
Je pense que j'ai bien aidé Paul en lui disant que c'était une femme.
Ah ben, vous connaissez quand même Olympe de Gouges,
oui,
pour le coup. C'est
oui.
L'égérie des féministes, Olympe de Gouges, oui. Puisqu'elle a évidemment rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et elle a été la deuxième femme guillotinée après Marie-Antoinette. Il y a eu d'abord Marie-Antoinette comme première femme guillotinée, et la deuxième, ce fut Olympe de Gouges. J'espère que
elle l'a dit, d'ailleurs.
Vous connaissez l'aviation, parce que je voudrais que vous retrouviez le nom de deux aviateurs qui étaient frères. Gaston et René, c'était leur prénom, étaient des pionniers français de l'aviation. Et d'ailleurs, ça s'est mal terminé pour eux.
Wright.
Les
frères Wright.
Voisins.
Les frères Wright. Non. Et c'est vrai que, voilà, entre le Crotoy et le Touquet-Paris-Plage, y en a un qui a dû atterrir plus vite que prévu, et puis l'autre qui s'est écrasé un peu plus tard. On est quand même au début de
c'est
l'aviation.
Ce n'est pas les frères Lacoste.
Ah, Lacoste, non.
Ça commence par
un L. Alors attention, René, il a tenu plus longtemps quand même que son frère, parce que René, il est mort en 1939, alors que Gaston, lui, il est mort en 1915. Et là, on était vraiment...
Ils n'étaient pas dans le même avion.
On était vraiment au début. Ah non, ils n'étaient pas dans le même avion.
Qui est con.
Si, mais la queue est tombée vraiment longtemps après.
Ah non, mais non, c'est non. Terrible à cette époque d'oser monter dans un avion pour vouloir le piloter, oui. Parce qu'on n'est pas sûr d'arriver au bout. Alors,
je sais, Saint-Exupéry qui s'est abîmé en mer.
Ah non, Saint-Exupéry.
Et alors, il y aurait Igaz un peu Antoine.
Colis.
Ah non. Et d'ailleurs, ils ont créé la première école de pilotage d'aéronef au Crotoy, voyez-vous.
Gaston et René Drucker.
Non.
Les frères Farman.
Les frères Farman, non. Gaston et René.
C'est le nom, les frères d'eux.
Ah non, pas les frères d'eux, les frères. Ou Gaston et René.
Lumière.
Non, Lumière.
Mais ils ont inventé quelque chose dans l'aviation.
Ah bah quand même, ils se sont passionnés.
Le crash.
Pour l'aviation naissante.
Quel était le nom de leur avion?
Gaston et René.
Ah non, mais par exemple, René a été le premier pilote à se poser à Paris-Plage en 1910. Ah,
ouais. Il y avait déjà Paris-Plage.
Et on lui a offert une médaille d'or pour ça, le maire du Touquet.
Il y avait la fête de la musique aussi.
Les frères Dora?
Non. Après, il a fait un aller-retour le Touquet-Merlimont. Je ne sais pas où c'est, Merlimont.
À côté, j'ai 3 km. C'est très court, mais.
Les frères Aïe.
C'est pas Roland Garros, lui, c'est arrivé.
Je jure que c'est à côté.
En vélo, tu y allais. C'est con de se casser la gueule.
Adair,
venez d'oublier.
Le con a voulu y aller par les airs.
Ça commence par un D.
Oui, mais quand même un peu de respect pour ces pionniers qui, quand même, aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, vous pouvez avoir une pensée pour eux. Ils ont créé la première école de pilotage en plus.
Les frères Dobie ?
Non.
Laurent,
non.
Est-ce qu'on a une chance de répondre à la question si on ne connaît pas la réponse ?
Ah non, aucune.
Mais c'est quoi la première
charade,
lettre ?
Un rébus ?
Non, mais quand même, à chaque fois, ce qui est fou, c'est qu'il s'écrasait, mais parfois, il s'écrasait, mais il ne mourait pas, il recommençait quand même.
Eh ben oui.
Il réparait.
Vous voulez dire qu'ils se sont écrasés souvent avant de mourir ?
Ah oui, au début, qu'est-ce que vous voulez ?
Gaston Perrin ?
Non. Ah, je suis bien content de donner 300 euros. Est-ce que quelqu'un habiterait la Somme ou le Touquet Paris-Plage et connaîtrait les fameux frères pionniers de l'aviation ?
Il y a une main qui se lève
là-bas, Ariel Dombal. Il va falloir courir.
Ariel,
courir.
Faut aller montrer ta culotte par là.
Mais ça m'énerve.
J'ai noté qu'elle le faisait. Elle le faisait très bien. Elle a un petit côté Simone Garnier qu'on ne soupçonnait pas.
Attendez.
Ah non,
c'est où ?
C'est là-bas. Elle est très douée pour l'animation.
Bernard,
hein.
Voilà.
Elle en a ouvert des
messieurs.
Alors,
c'est monsieur, qui a levé la main. Alors, attendez, il faut enlever votre petit masque. Voilà. Alors, votre prénom ?
Laurent.
Laurent, est-ce que vous avez la bonne réponse ?
Mesmin.
Ah non, pas du tout. Ah, non, c'est vrai que c'est le nom d'un avion.
Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un dans le public qui aurait une idée ?
Là-bas, il y a une main tout dans le fond, Ariel.
Une dame.
Pour une fois qu'elle parle au peuple, les gars.
Une dame avec des cheveux clairs.
C'est pas qu'elle a la réponse, mais c'est qu'elle veut voir Ariel de près.
Surtout, elle veut aller aux toilettes.
Madame, il faut enlever votre petit masque. Voilà. Comment vous appelez-vous ?
Sophie.
Alors, Sophie, est-ce que vous avez la bonne réponse ? Les frères ?
Blériot.
Ah non !
Ah, c'est Louis.
Ah, mais ça sonnait pas mal.
Bah oui.
Il s'agissait des frères Caudron. Gaston.
Oh, oui.
Gaston et René Caudron.
Oh, Caudron.
300 euros qui s'en vont. C'est déjà ça.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Morgane est au téléphone depuis Sainte-Colombe en Gironde. Bonjour Morgane.
Simone. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes et bonjour le public.
Oh bah le public vous encourage déjà.
Bonjour Morgane.
D'autant que Morgane, vous allez peut-être, grâce aux grosses têtes, partir en week-end de divertissement, de détente dans un casino et hôtel Partouche. Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu nos amis de chez Partouche. De nuit, dans un casino-hôtel de votre choix. Les casinos Partouche sont un peu partout en France. Au Havre, à Hyères, à Divonne-les-Bains, Contrexéville, Forges-les-Eaux. Vous choisirez vous-même votre casino préféré sur partouche.com, Morgane. C'est pas mal comme séjour, non?
Oui, c'est super.
Vous avez 28 ans et vous allez devoir bien écouter mes grosses têtes qui, alors attention, aujourd'hui, l'émission étant préalablement enregistrée, comme on dit, les affirmations de mes camarades grosses têtes ne vont pas concerner l'actualité, mais leur parcours. Qui vous connaissez le mieux, à votre avis, parmi les grosses têtes, Morgane ?
Bah, moi.
Je sais pas trop. Peut-être Madame Dombal.
Morgane, ça va vous porter bonheur.
Ah bah oui, alors.
Merci.
Parce qu'attention, il n'y a qu'une grosse tête qui va vous dire une chose vraie concernant son passé, sa vie, son parcours, son CV. Les autres, évidemment, vont vous mentir. On commence par Ariel.
La marque de lessive Ariel m'a contacté pour que je sois l'égérie de leur prochaine campagne publicitaire. Mais j'ai dit non, parce que je préfère Homo.
C'est possible.
Oui.
Yann Moix, c'est à vous.
J'ai eu la chance, quand mon livre Partouze est sorti en 2004, et le privilège d'avoir une préface signée Dominique Strauss-Kahn.
Partouze, préfacé par Dominique Strauss-Kahn. C'est l'affirmation de Yann Moix. C'est du domaine du possible. Caroline Diamant.
C'est moi qui ai écrit les paroles de la chanson de Gérard Jugnot, Le choix dans la date.
Attention, c'est à vous, Gérard Jugnot.
Pendant le tournage des Choristes, comme il faisait très chaud et qu'on tournait souvent en plan serré avec François Berléand, on a décidé, pour avoir moins chaud, de ne mettre que le haut de nos costumes et de tourner en caleçon.
Est-ce vrai ce que vient de dire Gérard Jugnot? C'est possible aussi. Paul Elkarat.
Apple m'a contacté pour que je devienne la voix française de toutes ces enceintes connectées.
C'est possible aussi, Bernard Mabille.
Oui, oui.
Je suis actuellement en procès avec un acteur porno qui a pris comme pseudonyme Bernard Mabitte.
Bon, c'est ça. Plausible. C'est plausible. Alors, à votre avis, qui dit la vérité, Morgane?
Ben déjà, je vais éliminer Madame Dombal.
Madame Dombal, est-ce que vous avez été contactée par Ariel? Ariel?
Eh bien, hélas, non. Parce non, que oui. C'est la meilleure des lessives.
Ah ben, ils veulent pognon, dites donc. Maintenant, ils vont vous appeler. Mais vous avez raison d'éliminer Ariel.
Oui.
Ensuite.
Après, ensuite, je vais éliminer Monsieur Mabille.
Monsieur Mabille, il n'y a pas d'acteur porno selon vous. Encore qu'il faudrait vérifier, c'est possible. Hein, mais
oui, possible. Mais il ne lui fait pas de procès, il est trop content.
Elle a raison, Caroline. Ensuite.
Je vais éliminer aussi Madame Diamant.
Oui, oui, oui.
Oui, absolument.
Le 45 tours existe bien. Hein, je vous le.
J'écris pas le
choix dans la date, mais si d'ailleurs on le retrouve, on va vous en passer un extrait. Bon. Mais c'est pas Caroline qui a écrit les paroles.
Et ensuite, je vais éliminer Monsieur Elkarat.
Monsieur Elkarat n'a pas été contacté par Apple. Très bien. Alors il vous reste. Bien
sûr que oui.
Yann Moix et Gérard Jugnot.
Et donc, du coup, je vais choisir Monsieur Jugnot.
Gérard, vous jouiez en slip dans les Choristes?
Non, en caleçon.
Pareil.
Non, c'était la canicule. Et il faisait très, très chaud. Mais il n'y avait pas d'enfants. Hein. C'était les scènes qu'on faisait entre...
J'espère bien.
Et pas que. Mais vous savez que... Il y a un type qui s'appelle Rod Steiger qui faisait ça. C'était pas pour... parce qu'il y avait chaud. C'était pour avoir des gros plans. Donc,
ah oui, pour être sûr d'avoir un gros plan.
Pour être sûr d'avoir un gros plan, comme ils ne mettaient pas le bras, les mecs sont obligés de tirer. Et c'est comme ça qu'on
est. C'est une bonne idée, dites donc. En tout cas, bravo, Morgane. Vous avez
merci.
Effectivement
bravo.
Identifié la grosse tête qui vous a donné la bonne information. Là, l'extrait du choix dans ma. De, comment on doit dire? Le choix dans la date.
Le oui, choix oui. dans la date.
Un soir où j'étais un peu speed, j'entrais dans une boîte presque vide où trois danseuses sur une étoile étaient à genoux. Comme elles n'avaient pas de tutu, j'arrêtais pas de mater leur corps. Et ce spectacle sans tarder me fit penser que ce genre de fille, c'est pas mon trip. Mais quand l'une d'elles vint me faire une bise, je me dis ça baigne une heure après rue Pélisset. Alors que j'étais en train de l'attendre, elle vint dardard et prit mon bras. En passant dans la rue de Courcelles, elle me
c'est joli, moi, je trouve, Gérard.
Oui,
il n'y a pas à rougir.
Non, non,
bon, évidemment, le titre, le choix dans la date est un peu spécial, mais en tout cas, c'est un 45 tours qui se vend très cher, désormais, au plus.
Oui.
Morgane, vous allez pouvoir profiter, non pas des puces, mais d'un casino Partouche le temps d'un week-end. Bravo! Allez, je sais qu'il y a longtemps que Paul Elkarat attend une petite question sur un philosophe parce qu'il aime les philosophes. Philosophe, juriste, médecin, c'est une question pour Carla Sfez qui habite Nice. Ce philosophe, juriste et médecin, attention, il est né un 14 avril en Andalousie et est mort à Marrakech au Maroc.
Averroès.
Bonne réponse de Yann Moix. Et de Paul Elkarat qui a suivi d'une seconde. Vous vous rattrapez bien, monsieur Moix.
Averroès. Ce sera pour ajouter.
C'est bien, Caroline. Un autre académicien français, on en a eu beaucoup aujourd'hui, mais cet académicien était dramaturge aussi, librettiste, poète. On dit d'ailleurs qu'il a créé le genre de l'opéra comique. Mais comment s'appelait ce dramaturge français à qui on doit, entre autres, l'opéra comique qui s'appelait Les Sabots, ou encore Le Mort marié, Le Faucon, Le Eugène Magnifique.
Scribe, Eugène Scribe.
Eugène Scribe, non.
Meillac.
Je l'ai.
Non plus.
Alévi.
Non plus. Monsieur Max dit qu'il l'a.
À Cohen.
Pardon.
À Cohen.
À Cohen, non.
Villemette.
Non. Orphelin à 13 ans, il a été tailleur de pierre, plâtrier, autodidacte complet. Il est devenu effectivement dramaturge. Il est né en 1719 et il est mort en 1797.
Ah là, c'est vieux.
Ah, c'est Fabre d'Églantine.
Et c'est un des premiers académiciens français en quelque sorte.
Marmont, non.
Non.
Non. Non, c'est. Ah, oh, oui, je vois qui.
Ariel, tu cherches
Oui.
Je vois qui c'est.
Il faisait travailler Marie-Antoinette, d'ailleurs, il la faisait répéter à Versailles.
Ah, alors c'est. Eh bien, Jean-Jacques Rousseau.
Ah, pas du tout.
C'est Jean-Baptiste.
Non, mais Rousseau a écrit pour Marie-Antoinette.
Fersen,
non.
Une bergeronnette.
Non plus.
Carmontel, non.
Non plus.
Marmontel, non.
Oh, ben non, je pense.
C'était Michel Jean, ses prénoms, vous voyez. De ce dramaturge, autodidacte. Non. Il a écrit, par exemple, un recueil de poésie qui s'appelait « L'épître à mon habit ». Et puis...
Est-ce que c'est pas quelqu'un qui s'appelait Nercia ?
C'est pas possible ! Je sais
Nercia.
Ça, son nom, il commence par un S.
Exact.
Ah.
Et il a été d'ailleurs aussi membre de l'Académie royale d'architecture.
Michel-Jean Savary ?
Non, Michel-Jean quelque
alors,
chose.
Alors, il y a un A dans son nom.
Oui, alors écoutez...
Sauveur ?
Non, mais on se rapproche...
Sévère.
Non plus.
Salvi.
Non plus.
Répondez quand même s'il y a un A dans son nom.
Oh bah non, je vais pas vous répondre.
La deuxième lettre, c'est un A.
Non.
C'est un I.
Ah non, mais écoutez, on n'est pas... C'est pas le jeu du pendu, ici.
C'est pas un A ni un I.
Il y a un A et un I, mais pas en deuxième lettre.
Il y a un A et un I, donc...
Salmondi.
Non.
Il y a six lettres, son nom.
Ah,
sept,
ah,
six,
ah,
six, bah, sept.
Écoutez, si vous voulez vraiment qu'on joue au pendu...
12.
Six,
ah,
sept lettres.
Attendez, s'il y en a six,
monsieur
Ruquier,
il y a six, sept lettres. Il y a
je mets une option.
Sept lettres.
Ah, voilà. Allez,
un,
le pendu.
3, 4, 5, 6, 7. Alors, on a le F.
Alors, le I où, monsieur ?
On a un A et on a un I.
Saulnier. Non, non, ah oui. Non, le I, le...
Mais où on en est, voyez ?
Mais la dernière lettre, c'est un I.
Non, c'est un E. Ah oh bah, j'ai pas le droit de dire.
Ah, ça y est, j'ai trouvé Michel Jean Sedaine.
Excellente réponse de Paul Alcarat.
Ouais.
On lui accorde parce qu'il a trouvé la première lettre.
Quel grand numéro.
Il savait qu'il y avait sept lettres. Voilà.
Je crois que depuis Mire et Miroska, on n'avait jamais vu ça aux grosses têtes. Mais vous avez été brillant. Mais j'ai encore une question très difficile, mais plus contemporaine, qui nous emmènera dans l'Est de la France. Mais ce sera après la pub. Une question contemporaine, puisque vous m'en réclamez, Caroline Diamant.
Qu'est-ce que le blurring ?
Non, mais puisque vous êtes, j'imagine, sur Twitter, toujours,
oui,
Caroline.
Même si je suis plus actif sur Instagram.
Oui, mais ma question porte sur le petit oiseau bleu de Twitter.
Oui.
Comment s'appelle-t-il ?
Il s'appelle Tweet.
Non, il s'appelle pas Tweet.
Il y a Bird dedans.
Alors, effectivement...
Angry Bird ?
Jean-Pierre ?
Non.
Birdie ?
Non, vous êtes sur une piste, monsieur El Karat, effectivement.
Bloob.
Mais il a un prénom, le petit oiseau bleu
Jacques.
De Twitter, parce que c'est le prénom de quelqu'un...
Oui.
Qui s'appelait Bird, effectivement.
C'est pas Charlie Parker.
Montgomery Bird.
Non.
Peter Bird.
Non, Peter Bird, non. Là, il faut connaître, évidemment, un peu la culture américaine. Et effectivement, les créateurs de Twitter se sont amusés à donner à leur oiseau bleu le même prénom que quelqu'un qu'ils admiraient et qui s'appelait Bird.
Luke ?
Non, non.
Kevin Bird.
Donald ?
Non, non, non.
Parce que Matt Maeterlinck a écrit l'oiseau bleu.
D'accord, merci. Mais c'est quoi le rapport ?
On peut aussi parler des stations de lavage d'éléphants bleus, si vous voulez.
C'était bien son vrai nom, c'était un pseudonyme, le fameux Bird. Hein.
Pardon ?
C'était un pseudonyme Bird ou son vrai nom ?
Ah non, c'était son vrai nom, ah effectivement. Il est une légende dans sa catégorie. Mais encore, encore faut-il retrouver la catégorie.
Le sport, peut-être.
C'est le sport. Effectivement, les créateurs de Twitter avaient une admiration.
Ah, ça y est, j'ai trouvé. Larry Bird.
Larry Bird, bonne réponse de Paul Alcarat. C'est un basketteur, Larry Bird, et c'est un des meilleurs basketteurs et entraîneurs de la NBA du 20 et 21e siècle. Il a tout gagné en tant que basketteur-joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, Larry Bird. Et comme il s'appelait Bird, eh bien, évidemment, les créateurs de Twitter, par amusement, ont décidé de prénommer leur oiseau bleu Larry, comme celui qu'ils ont admiré sur, on dit, les parquets de basket, hein, je crois. Oui, on peut dire ça.
Les parquets de la NBA.
Les parquets de basket. suite. Je me suis tourné vers...
Vers moi, parce que je suis une spécialiste, non pas du basket, mais des basketteurs.
Dans du parquet, je pense.
Non, c'est parce que j'ai pris beaucoup de mon panier, je ne sais pas.
Ariel n'a rien trouvé à dire sur ce sujet. Hein.
Si, si, je pensais Bluetooth, c'est bleu aussi.
Il s'agit d'une dent,
mais alors d'où ça vient ?
Je voudrais maintenant vous parler de quelqu'un qui publie un nouveau livre, « Beauté, j'écris ton nom ». Un livre plutôt bien conseillé par la presse. Je vois dans le Figaro, par exemple, une très bonne critique de quelqu'un, certes, qu'on connaît comme romancier, mais qui a surtout écrit de magnifiques chansons que vous êtes tous capables de fredonner. Quel est l'auteur de ce nouveau livre publié aux Belles Lettres ? Beauté, j'écris ton nom.
Didier Barbelivien ?
Non, Didier Barbelivien, non.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit des textes de chansons mais qui n'a jamais chanté lui-même ?
Ah, il n'a... Alors, peut-être qu'il chantait avec les amis, voyez-vous.
Et oui, je pense mais en même fait, il n'est pas connu comme chanteur.
Oui, mais je crois qu'il a enregistré lui-même ses chansons.
Boris
si, si.
Bergman.
Mais il est plus connu grâce à celle qui a, on va dire, interpréter ces deux chansons les plus célèbres.
Ah, oui, c'est Gréco. Ce serait pas Juliette Gréco.
Juliette Gréco, non.
Non, c'est...
Dumont
Moreau.
Jeanne Moreau, vous voulez dire oui, c'est Jeanne Moreau.
C'est, il a un Rezvani, nom, il a
Serge
un double
Rezvani.
Nom.
Pardon.
Serge Rezvani.
Serge Rezvani. Bonne réponse de Yann Moix.
J'ai les mémoires qui flanchent.
Rezvani, Serge Rezvani, c'est lui, par exemple, qui a écrit, effectivement, Le Tourbillon.
Tous ces bonnes chansons d'accord de là.
On s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà.
Et c'est lui aussi qui a écrit J'ai la mémoire qui flanche, évidemment.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre
alors il a surtout en fait écrit des chansons pour le cinéma, puisqu'il a aussi écrit pour Anna Karina. Serge Rezvani, qui n'est plus tout jeune, hein, il est né en 1928, à Téhéran d'ailleurs. Il est né à Téhéran, Serge Rezvani, et c'est lui qui publie un tout nouveau livre. Il écrit encore aux Belles Lettres, « Beauté, j'écris ton nom ». Une autre question qui nous emmène cette fois dans l'Est de la France. En effet, là-bas, dans l'Est de la France, en 1928, a été créée une marque fabriquée tout d'abord à Schiltigheim, dans l'Est de la France, dans des ateliers qui s'appelaient les ateliers réunis et fabriques de mangeoires pour les poussins et les articles de ménage en fil métallique. C'était un peu long, hein, comme,
non, pas du tout.
Comme nom d'atelier et d'entreprise. Voilà pourquoi très vite ça s'est appelé
Félix Potin.
Félix Potin, non. Mais c'est vrai que avec l'intitulé des ateliers, vous pouvez, si vous êtes un peu malin, retrouver de quelle célèbre marque il s'agit. Une marque qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est même devenue quasiment un nom propre et qui a quelques difficultés financières depuis peu.
Tupperware.
Tupperware.
La gueule.
Il y a un catalogue avec.
La gueule.
Il n'y a pas de catalogue. Non.
Arco Pharma.
Opinel.
Opinel. Non.
Dans l'Est.
C'est pas du couteau.
C'est pas des couteaux.
Des armes,
non.
Est-ce que c'est de l'essence ?
Non.
Est-ce que c'est du fil barbelé ?
Du fil barbelé, non.
Non, mais ce serait intéressant que tu nous donnes une marque de fil barbelé.
Non, mais c'est vrai que si vous partez sur du fil barbelé,
mais oui,
ça peut vous faire penser...
Ah, c'est du grillage.
Alors,
on se rapproche avec du grillage. Eh bien, c'est les collants Rési, c'est la marque DIM.
Pouf !
Ah, excusez-moi, c'est pas illogique.
Non, non. Je vois bien Caroline avec ses collants en fer métal.
Caterpillar.
Non.
C'est un nom propre qui est devenu quasiment un nom commun, en fait.
C'est un nom propre qui est devenu un nom commun. D'ailleurs, derrière le mot, généralement, on est obligé de marquer, je crois que c'est un petit R hein, qu'on met dans ces cas-là.
Un petit C, copyright.
Ou un petit C, oui, copyright, parce que c'est une marque, évidemment. Mais
le nom de quelqu'un, Tamponjet, Tego.
Ouais, comme Karcher.
C'est le nom de quelqu'un?
Scottex, Spongex, attendez.
Non plus.
Est-ce que c'est le nom de quelqu'un ?
Gratounette de Spontex.
Ce n'est pas le nom de quelqu'un.
J'adore.
Non.
La vache qui rit.
Alors, il y a un deuxième site de production ensuite qui s'est créé dans les années 70 à Drusenheim, vous voyez. Mais le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'il y a des tas d'entreprises à travers le monde qui ont fabriqué
qui copient,
la même chose. Et il y a des filiales de production en Chine, au Portugal.
Laurent, est-ce qu'on en a tous chez nous ?
Et là, pour tout vous dire, la trésorerie est à sec. Ils ont déposé le bilan. Qu'est-ce que vous dites?
Est-ce qu'on en a tous chez nous?
Eh bien, normalement, on n'a pas le droit d'en avoir chez vous.
C'est dans le feu.
Ça reste okay.
C'est du poison.
Ça reste c'est pour éteindre les feux.
Non, ils
des
ont...
extincteurs.
C'est des flingues.
L'entreprise a déposé le bilan en janvier dernier. Là, on cherche un repreneur, voyez-vous.
Et... Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir?
Winchester.
C'est des armes à feu.
Le nom en question.
C'est une arme.
Et généralement, on en
est-ce que c'est la marque qu'on n'a pas le droit d'avoir ou c'est l'objet?
L'objet. Il vous reste 30 secondes.
Une chaise électrique.
Et je suis assez content.
Ah oui.
Est-ce que tu peux nous donner une marque de chaise électrique?
Des portes de garage.
Du grillage. Non, mais vous devriez penser.
Des plaques de rue?
Des plaques de rue, non plus.
Des plaques d'égout?
Des
parfumettes.
300 euros.
Des fusées.
300 euros.
Un heureux et 300 euros voilà. Pour Régis Landriveau qui habite Neuville-les-Dieppes en Seine-Maritime. Je crois qu'on a la réponse.
Ah, des barricades.
Non, mais c'est fini, Ariel.
Ah bon, attendez.
Ariel, il faut aller en public.
La culotte.
Voilà. Alors. Alors, monsieur qui vient des Canaries, qui s'appelle Patrick, est-ce que vous avez la réponse?
Oui, les caddies de supermarché.
Les caddies, ah ouais. Évidemment.
Bravo.
L'entreprise caddie.
Bien sûr.
Eh oui.
Alors, pourquoi ils vont mal?
Ah bah ils vont mal, ils ont déposé le bilan, moi. Je suis pas dans les comptabilités de chaque entreprise, vous voyez.
Mais enfin, on peut pas faire les courses sans un caddie.
Mais c'est une société française qui fabriquait des chariots de supermarché et qui s'est appelée, effectivement, dans un premier temps, il y a très très longtemps, hein, cela va de soi, Atelier Réuni et fabrique de mangeoires pour les poussins et articles de ménage en fil métallique. Puis après, ils se sont reconvertis dans le caddie, évidemment. Caddie, c'est une marque, mais c'est devenu quasiment un nom commun. On n'a pas le droit d'avoir un caddie chez soi. On doit le laisser sur le parking du supermarché.
Zézette, elle en a un.
Ou alors, pardon?
Zézette, elle en a un.
Ça, c'est vrai, Gérard Jugnot.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez reconnu le nom de Sedaine?
Non, j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Ah. Écoutez, voilà qui est honnête de votre part de le dire.
Est-ce que vous auriez pu trouver?
S'il y avait un peu plus de culture, oui.
Ah oui,
c'est une bonne réponse.
Invité mystère, est-ce que vous êtes porteuse de petites jupes?
Seulement dans l'intimité. Non.
C'est quoi cette question?
Donc, c'est une femme.
Non, ce n'est pas une femme, c'est un homme, notre invité
dans
mystère.
Dans l'intimité, ah
non,
oui.
Non, c'est une blague.
Ah, c'est une blague.
Est-ce que Les Grosses Têtes est une émission que vous aimez écouter régulièrement?
Oui.
Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère?
Oui.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui.
Combien?
Deux.
Vous êtes plutôt guitare ou piano?
Piano.
Ah, donc vous êtes musicien.
Vous en jouez, du piano?
Non.
Ah bon? Oui, alors là...
Est-ce que ce serait le piano...
Notre invité mystère est mystérieux.
Oui.
Est-ce que ce serait vous aimez dessiner?
Pardon?
Vous aimez dessiner?
Pardon? Non, je dessine très mal.
Portez-vous un pseudonyme, invité mystère?
Non.
Invité mystère, est-ce qu'on peut vous voir sur des écrans?
Oui.
Vous préférez le 21e siècle ou le 20e siècle?
Le 20e.
Voilà des questions qui ne feront avancer personne.
Ah si, on peut savoir qu'elle est... Ah bah si, mais ça veut dire qu'il a bien connu le 20e.
Il y a une époque qu'il aime bien en ce moment, c'est celle qui va vous faire deviner peut-être son actualité.
Ah, vous avez fait le djihad?
Et ça nous sert de premier indice.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.
On aurait envie d'écouter Yves Montand jusqu'au bout de la chanson. Vous avez reconnu le temps des cerises. Ouais. Ou pas, vous n'aimez pas cette chanson, le temps des cerises?
Ça me fout le cafard, un chouïa.
En tout cas, vous êtes d'accord, invité mystère, pour dire qu'elle est liée à votre actualité.
Exactement.
Vous êtes écolo?
À mes heures perdues.
Vous êtes maraîcher?
Non.
Vous êtes intéressé à la commune de Paris?
Oui.
Et oui, effectivement, Paul Elkarat propose Jean-Baptiste Clément, mais vous n'êtes pas Jean-Baptiste Clément, mais en tout cas, effectivement, votre actualité est liée à cette période de 1870 de la Commune.
Vous avez un ancêtre qui a participé à la Commune?
Non.
Invité mystère, est-ce que vous avez déjà reçu des prix littéraires?
Non.
Est-ce que vous êtes acteur, invité mystère?
Oui.
Voici un deuxième indice.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
Vous êtes capable, invité le mystère, j'imagine, de resituer cette chanson dans votre filmographie?
Ok, oui.
Vous avez tourné dans le biopic sur Barbara?
Non, c'est pas Barbara, c'était Anne Sylvestre qu'on vient d'entendre.
Est-ce que votre actualité se situe au cinéma ou à la télévision?
Ni l'un ni l'autre.
Mais en tout cas, l'indice qu'on vient d'entendre, lui, c'était pour du cinéma à l'époque. Vous pouvez peut-être dire le titre du film, ça aiderait mes camarades, qui sait?
Plaire, aimer et courir vite.
Un film de Christophe Honoré, dans lequel on entendait cette chanson d'Anne Sylvestre. Mademoiselle Dombal propose Mathieu Amalric. Êtes-vous Mathieu Amalric?
Non.
Yann Moix propose Romain Duris. Est-ce que vous êtes Romain Duris?
Non.
Vous jouez dans les comédies, essentiellement?
De plus en plus récemment, mais non, je suis pas connu comme acteur de comédie.
En revanche, Yann Moix qui a proposé Romain Duris, s'il a vu le dernier film dans lequel jouait Romain Duris, il vous a vu aussi, puisque c'était un film que je vais vous faire deviner grâce à cet indice.
Amis, chantons la complainte de la pauvre tour Eiffel. Écoutez sa morne plainte quand le vent souffle du ciel. On vient de la mettre au monde, la belle.
Et pas très gaie cette chanson, dites donc. Hein. C'est Mouloudji qui chante la complainte de la Tour Eiffel. Effectivement, vous jouiez dans ce film aux côtés de Romain Duris. On est d'accord, invité mystère?
Oui.
Mais vous êtes une femme?
Non, c'est un homme. Bernard Mabie vous a... oui, vous a identifié. Oui. Bravo Bernard, vous suivez le cinéma. Monsieur Junio, c'est normal, vous a identifié lui aussi. Et Caroline Diamant, 3 grosses têtes sur 6.
Eh oui.
L'Assemblée était miplégique parce que
mais
du côté d'Ariel Dombas,
non,
de Paul El Karat et Diane Moix...
Non, mais j'ai pas vu cette
tour Eiffel en question. J'ai honte parce que j'ai vu le film il y a 2 jours.
Ah bon, bah alors bravo.
J'ai honte.
Ah ben vous avez honte, monsieur Moix. Bah, je vais vous donner un autre film grâce à l'indice suivant.
Pourtant, je sais que tu me plais.
Vous enlevez petit et vous avez au moins le titre d'un film pour lequel vous avez été nommé au César, c'est bien ça, invité mystère?
Pas nommé, non, je présélectionnais, mais j'ai pas été nommé pour ce film-là.
Présélectionné, c'est déjà pas mal.
J'ai une question, vous avez à peu près le même âge que Romain Duris ou pas?
Un petit peu moins.
Ah, peut-être que si vous donnez votre date de naissance, Paul El Karat va vous identifier. On n'a pas la date de disparition, en revanche, Paul.
Bah, il est un peu vivant, du coup.
Allez,
Romain Duris, 74, mais alors vous?
Un dernier indice pour Ariel, Yann et Paul.
Quand dans mon lit, je dors bien, il y a toujours un petit coquin, il y a toujours une petite fripouille pour me faire des chatouilles. Quand dans mon lit, je dors bien, il y a toujours un petit coquin, il y a toujours une petite fripouille pour me faire des chatouilles. Arrête, petit.
Bon, on peut pas dire que ce soit le rôle le plus sympathique que vous ayez eu.
Ah non, on
dans
peut
ce
pas dire.
Film Les Chatouilles, mais quand même, c'est un rôle marquant dans votre filmographie.
Ah, oui.
N'est-ce pas, invité mystère?
Oui, exactement.
Alors, on me propose Pio Marmaille, Ariel Dombal. Non, vous n'êtes pas Pio Marmaille. Et Paul El Karat, j'arrive pas à vous lire, Paul.
Nils Schneider.
Ah, Nils Schneider. Êtes-vous Nils
non.
Schneider?
Non plus.
Non plus. Bernard Mabie, Caroline Diamant et Gérard Jugnot vont donc annoncer. C'est l'arrivée. J'abandonne de ce côté-ci.
Mais non, mais les années 80, vous êtes né ou pas?
Oui.
Ah oui, d'accord. D'accord.
Vous trichez un peu, invité mystère.
Non, en 1980, j'étais déjà né.
Oui, c'est ça.
Ah oh là là.
Qui est coquet?
Ah non, mais j'ai vraiment pas compris la question. Je suis né en 78.
Voilà. Non, parce que vous
faites... Ah, mais il y en a beaucoup, hein.
Paul, il faut être précis avec lui. Hein, si
le 1er juin.
Je me tourne vers Bernard Mabie, Caroline Diamant et Gérard Jugnot. Notre invité mystère, c'est...
Pierre Deladonchamp.
Pierre Deladonchamp qui nous rejoint pour nous parler théâtre. Pierre Deladonchamp était notre invité mystère. Et il joue... Il joue les amants de la commune au Théâtre Antoine, une pièce de Laurent Sexic. Alors, est-ce que c'est une pièce, d'ailleurs, vraiment ?
C'est une lecture-spectacle où il y a des phases jouées, des phases où ils s'envoient des lettres, ces deux amants. Donc, ils écrivent ou ils lisent.
Et la maîtresse, c'est Isabelle Carré.
Oui.
Un joli duo au théâtre. Isabelle Carré, Pierre Deladonchamp, réunis sur scène grâce à Laurent Sexic. Mise en scène par Géraldine Martineau de la Comédie-Française. C'est à quelle heure ?
C'est les vendredis, samedis à 19h et le dimanche à 16h, sauf la première qui est à 19h ce dimanche.
Je vous demande les horaires parce que je sais qu'Isabelle Carré vous trompe avec José Garcia.
Oui, exactement, au théâtre du Rond-Point. Oui.
Elle joue dans deux pièces en même temps.
Oui, je ne sais pas comment elle fait, franchement, elle a beaucoup d'énergie.
Alors racontez-nous les amants de la commune. Sont des textes inventés par Laurent Sexic ou est-ce qu'il s'est inspiré de réelles lettres qu'il a trouvées ? Comment il a fait ?
Alors, c'est des lettres inventées, c'est une fiction, mais qui est basée sur les faits historiques qui ont accompagné l'histoire de France, que les gens ont vécu à l'époque. Et c'est un soldat qui part au front combattre les Prussiens pendant qu'une jeune servante devient peu à peu communarde.
Mais ils sont différents l'un et l'autre au sens où normalement ils n'étaient pas faits pour se rencontrer et tomber amoureux l'un de l'autre.
Exactement, ils se rencontrent d'ailleurs à une première de théâtre où lui offre des fleurs au lieu d'en offrir à une autre et de là part leur histoire alors qu'ils ne sont pas censés être du même monde.
Laurent Sexic aime ça, c'est pas sa première pièce pour laquelle il utilise l'histoire, il l'avait fait d'ailleurs avec Stéphane Zweig, c'est Patrick Timsit qui avait joué le rôle au théâtre, mais avec d'autres moments de l'histoire, il aime utiliser l'histoire de France pour en faire des pièces de théâtre. Courez au Théâtre Antoine, applaudir deux acteurs pour la première fois, on peut dire réunis
Ah oui, c'est la première fois.
Mais il y a longtemps d'ailleurs que vous aviez joué au théâtre, Pierre Deladonchamp.
Oui, j'avais pas trop le temps quand on tourne au cinéma, c'est dur de trouver une période longue où on peut répéter, jouer pendant plusieurs mois.
Alors effectivement, les films, on les a évoqués dans votre filmographie, Vaurien, dans les plus récents, Les Chatouilles, qui a été un énorme succès réalisé par Andréa Bescon et Éric Métayer, mais vous aviez le rôle du pédophile, alors c'est pas très agréable, évidemment, voilà, à rappeler dans une filmographie.
C'est important, hein, c'est un film politique, je suis fier de l'avoir fait, même si c'est pas forcément un rôle qui attire l'empathie, tant mieux, parce que c'est pour dénoncer un fait qui est très important à faire émerger dans la société.
Vous étiez plus victime avec Romain Duris dans le film sur la Tour Eiffel.
Oui, voilà. Plus cocu.
C'est plus précis. Alors, vous avez vu le film et vous vous souveniez pas de Pierre Deladonchamp, Yann Moix.
C'est évident. Vous savez, parfois, les évidences, on se retrouve en dernier. Demandez à Paul.
À quoi ? Moi, j'ai pas vu. J'ai vu aucun film. Je vous aurais pas trouvé. Désolé. Mais par contre, j'ai vu votre nom sur une affiche dans le métro.
Ah bah, c'est déjà pas mal.
Mais j'ai pas su le ressortir.
Ça prouve que la pièce, au moins, est bien annoncée dans le métro.
Merci. Non, c'était pas pour la pièce, c'était pour... C'était pour le film de Eiffel, je pense.
Ah bah oui, d'accord.
Ah oui, il y a un bout de temps.
Il y a un bout de temps, c'était pas il y a 50 ans non plus.
Mais... Non, mais je veux dire, c'est pas en ce moment. Peut-être le DVD qui est en train de sortir, qui est sorti il y a quelques temps.
Tout cas, on vous conseille ces films dans la filmographie et le fils de Jean, évidemment, si on veut citer les films les plus importants, ou L'Inconnu du Lac, évidemment, avec lequel le public a fait votre connaissance, Pierre Deladonchamp. Voilà pour votre filmographie. Courez au théâtre, applaudir ce duo. Comment elle va faire, Isabelle Carré ? D'ailleurs, elle va arriver à l'heure. Elle joue d'abord où ? Au Théâtre Antoine ou au Théâtre du Rond-Point ?
Elle arrive épuisée là-bas.
Donc vous êtes tranquille alors.
De toute façon, elle a une énergie folle et donc elle joue à 19h avec nous et à 21h au Rond-Point. Jusque fin mars, après en avril, elle sera que au Théâtre Antoine.
Que pour vous donc.
Voilà. En tout cas, dans L'Inconnu du Lac, vous étiez mais prodigieuse.
C'était il y a 12 ans.
Hein. c'était extraordinaire. C'était la découverte d'un immense acteur et d'une grande beauté.
C'est un très grand acteur.
Du coup, tu le connais, du coup.
Mais
tu m'as dit que je le connaissais pas tout à l'heure.
Non, c'est toi.
Tu l'as pas trouvé.
Non, j'ai pas trouvé. Mais maintenant que je réalise, je suis émue tellement c'est un grand acteur.
Ariel, quand elle ne trouve pas, elle trouve quand même quelque chose à dire. C'est sa spécialité dans l'émission.
J'ai compris. Hein.
Pierre Deladonchamp et Isabelle Carré au Théâtre Antoine, les vendredis, samedis et dimanches à 19h. Courez voir Les Amants de la Commune. Merci Pierre Deladonchamp.
Merci à vous.
À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.